It's the What's Up Podcast. What's Up Podcast. What's Up Podcast. I'm back. Jeremy Allen.
Yeah. Boom, 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 boom. Yeah. What's up tout le monde? Comment qu'ils vont les potes? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Ici Jer Alain. Je vous souhaite la bienvenue au What's Up Podcast. Cette semaine, merci de me donner des bons commentaires. Tous ceux qui m'écrivent, pour vrai, ça fait vraiment du bien parce que je sais pas pourquoi cette semaine-là, mais tabarnak, j'ai reçu de la marde, c'est effrayant à quel point j'ai reçu de la marde, se dit. J'en ai reçu sur le podcast, j'ai fait les bons dimanches avec Julien Bernacci. Puis quand je dis recevoir de la marde, c'est dans les commentaires, là. Ouais, man, dans ce podcast-là, dans mes deux vidéos que j'ai faites, là, l'un, c'est un sauna pour les pauvres, puis l'autre, c'est ma vidéo du Rockfest. Est-ce qu'il y en a qui se sont donné ben raide? Moi, je fais comme si ça me faisait rien, je fais des commentaires dessus. Puis je ris de ça, puis j'essaie de le tourner en positif. Mais tabarnak que ça m'atteint. Ça m'atteint, là. Hostie que ça me fait mal. Chaque commentaire, là. Après, je reste pendant comme une demi-heure à juste réfléchir à ça, puis à faire comme, hey, est-ce que Chris, oh, fuck you, toi, est-ce que tu vas chier, tabarnak. Ça me rentre dans la tête, c'est effrayant. Fait que, en tout cas, juste vous dire que ceux qui m'écrivent pour me dire qui aiment qu'est-ce que je fais, puis qui pensent comme moi, puis qu'ils se rejoignent dans qu'est-ce que je fais. Merci beaucoup, c'est vrai. Vous savez pas à quel point c'est apprécié, okay? C'est très apprécié. Là, cette semaine, qui qu'on a reçu, on recevait Patrick Côté, un ancien fighter de la UFC, MMA fighter. C'était vraiment très cool. J'ai eu plein de fuck-up avec le son, ok? Fait que désolé pour ceux qui écoutent ça en audio, mais c'est pas des gros fuck-up, ok? Fait que des fois, il jam. Je pense que c'est arrivé à genre à 7 reprises. Des fois, il y a qu'une seconde qui coupe ou il y a un 2 secondes qui coupe. Fait que c'est un peu chiant, mais il n'y a rien de si grave que ça, là. Fait que c'est pas la fin du monde, là. Même que des fois, on s'en rend quasiment pas compte. Puis en plus, là, pour ceux qui l'écoutent en vidéo, j'avais mis mes deux caméras dessus vu que c'était Pat. Tu sais, je suis sûr qu'il va bien pogner ce podcast-là. Fait que j'avais fait exprès dans les deux caméras puis de me casser la tête à faire plus de montage. Puis tabarnak, j'ai oublié de le mettre parce que là, la caméra, elle a un mode qui est automatique puis l'autre qui est manuel. J'ai oublié puis je l'ai laissé sur le mode automatique. Fait que là c'était vraiment trop de la merde. Tu sais, quand ça faisait comme un gros plan sur lui, d'un fois, l'image, elle devenait claire, là, elle revenait sombre, claire, sombre. Puis là, j'étais comme, ah, sacrement, c'est gossant ben raide. Fait que là, c'est juste une caméra, mais en tout cas, ça va être quand même le fun à écouter, là. Je suis allé être content pareil, c'est gratis de toute manière. Vous allez être bien content. Fait qu'en cas, ça va être ça pour cette semaine. Merci beaucoup tout le monde. Comme je vous disais, il va y avoir une date, la tournée Blackout en septembre. Je le recommence, tournée Blackout septembre 2018. Il va y avoir encore plein de dates, fait que c'est encore le temps de nommer vos villes. Ou sinon, quoi d'autre? La dernière fin de semaine, il y en a bien qui me parlent du Saguenay, là, mais la dernière fin de semaine d'août, qui est... je me souviens plus des dates, là, mais je sais qu'il y a le 1er 2 septembre, il y a peut-être le 30... Je pense qu'il y a le 30, puis le 31, puis le 1er, puis le 2 septembre. C'est ça, le 30... 30-31 août, puis 1er, puis 2 septembre. En tout cas, j'enregistre mon podcast live au Festival d'humour de Alma. Fait que je vais être là. Ça a rasé choqué. Finalement, on s'est entendu avec un deal. Puis je pense que ça va y aller. Je pense que ça va y aller. Mais en tout cas, si ça choque, ça choquera. Là, mais en ce moment, jusqu'à présent, ça marche. Vous pouvez venir voir ça. Et ben gars, ça va être ça pour cette semaine, ok? Fait que merci beaucoup tout le monde encore une fois. Vous savez pas à quel point je vous aime, ok? J'ai beaucoup... beaucoup d'amour. Tous ceux... tabarnak. Tous ceux qui m'écoutent, tous ceux qui trippent sur ce que je fais, je vous aime en tabarnak. Les autres, allez te chier, ils se disent, vous me comprendrez jamais! Non. Non, pour vrai, ils ont le droit à leur opinion. C'est juste, stick d'un fouet, là, tabarnak, stick, il y en a qui ont de l'air cave. Il y en a, man, qui me donnent des commentaires négatifs, mais constructifs. Ou négatif, respectueux. Ouais, je vais plus aller avec ça. Puis, je respecte ça, man. Parce qu'au moins, si tu m'insultes pas, tu fais juste faire comme... Puis souvent, il y en a qui marquent des bons points, pour vrai. Pour vrai, il y en a qui marquent des bons points. Il y en a d'autres, je suis juste pas d'accord avec. Puis, genre, il y a 80% de d'autres. C'est des hosties de caves qui font comme... Jerry Allen, c'est un Christ d'imbécile, ce gars-là. T'es un hostie de crotté. Je fais comme tabarnak, man. Tu sais, comment que. C'est sûr, est-ce que je vais te répondre en faisant comme fuck you, là, tu sais. Ben, c'est juste ça que j'ai le goût de faire, là. Mais en tout cas, peu importe, là. Fait que, gros merci à vous, ceux qui m'écoutent. Puis les autres, ben, je vais commencer à vous ignorer. Fait que, merci beaucoup, tout le monde. Passez une excellente semaine. On se revoit la semaine prochaine et passez une excellente semaine. Au revoir, tout le monde. Ciao.
À
avoir une date, mais finalement, ouais. On en a eu une.
Ouais, c'est ça. Les derniers temps, ça a été... J'ai eu mes vacances. Après ça, j'ai eu d'autres patentes. Fait que ça a été compliqué. Mais
ouais.
Là, on est là.
C'est pour ça que je suis content d'être rendu avec un gérant. Là. C'est lui qui s'occupait de ça.
C'est de la marge. Il n'y a pas de problème.
Exactement. C'est de ça. Puis, qu'est-ce que tu faisais hier? T'étais-tu bien occupé?
Hier? Ouais. Écoute, moi, j'ai eu une super bonne idée, tu sais, je m'ennuyais, fait que j'ai décidé de m'inscrire à un triathlon, fait que je fais un triathlon dans 5 semaines, le 19 août, puis écoute, hier, je m'entraînais, j'étais dans le Richelieu en train de nager, fait que très bonne idée.
tant qu'à rien faire, hein, un petit triathlon de même.
Ça. Plus ça approche, plus je me dis que t'as une idée de marde, j'ai du fun pareil, tu sais, c'est correct, après ça, c'est d'autres choses.
Toi, c'est un peu trop demandant?
Ben non, mais tu sais, c'est sûr que c'est pas évident, là, tu sais, c'est rough, là, mais tu sais... Quand j'ai pris ma retraite, moi, à un moment donné, tu sais, là, évidemment, tu sais, m'entraîner, j'en avais plein mon casque.
Ouais,
moi,
ouais,
là,
ouais.
Fait que, tu sais, après 15 ans, je me suis dit, gars, on va prendre une année que.
Une petite pause,
t'inquiète. Fait qu'à un moment donné, je montais les marches, j'étais essoufflé. Fait que je me suis dit, gars, on va m'en prendre en main.
On va faire un triathlon.
J'ai profité pas mal. Fait que là, j'ai ouvert un centre, le centre XPN à ça arrive sud. Fait que là, je me suis dit, tant qu'à avoir un centre sportif à mon nom, t'es aussi bien être en forme parce que c'est comme, ça marche pas si t'es overweight dans ton propre centre.
ouais, c'est ça, ça vend pas ben dans du restant-là. Là. Ah, cool, man! Puis, ça, c'est-tu la première fois que tu fais un triathlon?
Ouais, c'est la première fois. Écoute, c'est ça, tu sais, je me suis en allé. Quand je suis parti à la retraite, c'est ça, tu sais, je me suis dit qu'il faut que je me trouve quelque chose, un autre défi ou de quoi de même. Moi, il faut que j'aille comme une date qui arrive de quoi pour
deadline,
commencer à m'entraîner sérieusement. Ça a toujours été comme ça. Puis là, je me suis dit, regarde, je vais prendre cette date-là. Comme ça, je suis libre ce week-end-là. Puis on va faire ça. Fait que là, ça fait à peu près peut-être 2 mois là, que je me prépare pour ça.
Est-ce que moi, j'ai du respect pour ça? Parce que moi, avant, j'étais en forme. Mais là, attends, j'ai tellement d'années à rattraper. Là.
Hey, écoute, c'est rough. Puis là, tu sais, tous mes amis, ils disent, là, tu vas être prêt pour le Ironman l'année prochaine. Hey, t'es-tu malade? Donc, moi, je m'en vais pas là faire une série de triathlons. Je vais faire un triathlon, on va checker ça, puis ça va être tout. Je vais faire d'autres choses après.
Tu vas être bon pour l'année.
Non, ça n'a pas de bon sens.
Depuis que tu as arrêté le UFC, t'es-tu un peu plus sur le party? Tu te laisses-tu un peu plus aller? Ou t'as quand même un peu le même mode de vie qu'avant?
Non, ben écoute, c'est sûr que tu sais, m'entraîner, ça va toujours faire partie de ma vie. Mais c'est sûr que la diète, ça a pris le bord. Là.
C'est ça,
moi, j'ai été à la diète pendant quasiment... Pas dans les premières années, ben, je me battais quand même dans Milo. J'étais commandité par la mayonnaise quasiment. je m'en crissais un peu pour vrai. Là. Je mangeais tout ce que je voulais. Mais après ça, je me suis battu à 185. Puis à la fin, les 400 dernières années, je me suis battu à 170. Fait que tu sais, c'est sûr, la diète était super tough. Puis j'ai toujours dit la même affaire. Moi, aller au gym, recevoir des coups de poing dans la face à tous les jours, ça me dérange pas vraiment, mais manger du crisse de poulet bouilli à tous les jours, ça, ça me fait chier. Fait que, mais la diète, c'est vraiment rough. Fait que, fuck it. Tu sais, l'affaire qui est drôle là-dessus, c'est. Tu sais, j'ai pris ma retraite le 8 avril 2017. Puis la dernière fois que je me suis pesé, c'est pour la pesée du combat, le 7 avril 2017.
Ouais.
Je n'ai pas rembarqué sa balance depuis ce temps. On a fait une cérémonie à chez nous, à la maison, avec une balance. On l'a pitché au bout de nos bras. Et c'est terminé. Toi, puis moi, on se verra plus à la face jamais.
Ma tabarnak.
Non, non, c'était rendu là.
Cris,
c'est
le feu de
Dieu. Ça n'a jamais été ma meilleure amie, celle-là. Oh. Ah non.
Cris, toi, puis une anorexique, le même combat aussi.
Ah, c'est, ouais, même combat. J'étais un peu plus en santé.
Ouais, moi, c'est ça. Moi, c'est le premier mot qui m'est venu à la tête. Fait que, hey, ben, je pense qu'on est prêt à starter ça officiellement, tabarnak. Fait que, what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast, man. Je reçois un nouvel invité. Je suis super content de l'avoir. Un ancien combattant du UFC, Patrick Côté. Comment qu'il va, mon gars?
Ça va bien, ça va bien.
Yes, t'es en forme?
T'es en forme, ouais. Là, je suis en forme. Là, ouais.
Là, ça va.
T'es en forme,
ouais. Toi, t'avais un podcast avant, hein?
Ouais, j'avais un podcast. C'était le podcast Uppercut. Mm-hmm. Je faisais ça avec un de mes chums qui s'appelle LP, puis lui qui a le site mmenouvelle.com. Puis on a parti ça à un moment donné, il y a à peu près un an et demi. Puis ça a pogné vraiment gros. C'est un podcast sur le MMA, puis on parlait du UFC, du Bellator, puis les affaires.
Ouais.
Puis ça a super bien pogné, sauf qu'à un moment donné, c'est pas de la faute à LP, c'est de ma faute. J'ai plus le temps de faire ça. Ça prenait quand même 3 heures de mon temps. Puis on faisait ça quand on était capable d'être en même temps ensemble.
Ben c'est ça, vous êtes les deux.
Puis on était les deux, fait que je pouvais pas faire ça tout seul de mon bord. Fait que, fait que ça venait compliqué. Puis tu sais, depuis qu'on a arrêté ça, ben le monde sont un peu déçus parce qu'on avait bien du monde qui nous suivait, puis nous posait des questions. Puis tu sais, on avait bien du fun à faire ça. Puis
ben, surtout, toi, t'es un connaisseur.
On a eu Dana White, on a eu on a eu Georges Saint-Pierre, on a eu Mike Goldberg, on a eu Bruce Buffer en entrevue dans notre podcast.
Fait que
on a
été chercher des gros noms.
Fait que, c'est sûr que on était le podcast qui parlait du MMA en français, le plus gros. Là,
Ça
n'existe pas. Sauf que c'est ça. C'était un manque de temps pour moi, mais j'ai jamais bien ça faire ça.
C'était-tu en anglais, en français?
Non, c'est en français.
En plus?
Ouais, c'est ça, on était ça. Mais tu sais, c'est une pause. T'sais, j'ai dit, on a mis ça sur Atlas.
Ouais.
Je dis pas qu'on va pas revenir à un moment donné.
OK.
Mais tu sais, en même temps.
Deux triathlons, là, tu vois, le temps.
Il n'y aura pas un deuxième.
Tu sais, c'était coincé à peser, là, l'autre bord, là.
Mais tu sais, c'est comme ça. Mais tu sais, en même temps, c'est un hobby pour moi. Tu sais, je gagne pas ma vie avec ça. Là. Fait que tu sais, des fois, j'ai une petite fille en plus, avec faut que je m'en occupe. J'essaie d'être un bon père, j'essaie de donner l'exemple.
Puis est-ce que c'est ça, est-ce que maintenant t'avais toute une équipe avec ça ou c'était juste pas mal vous deux, puis après ça vous arrangez avec le montage puis le mettre
On était juste nous deux, puis c'est LP qui s'occupait de faire le montage. Puis on avait été une petite compagnie qui nous avait fait notre intro qui était vraiment cool, tu sais, pour nous autres. On était juste nous deux là-dedans, puis c'est ça, puis tu sais, vraiment je prends le blâme, c'est de ma faute, j'ai juste pas le temps de le faire à cette heure.
Puis LP, lui, c'est quoi son background? Lui, viens-tu du MMA?
Lui, LP, il a fait un peu d'arts martiaux, là, mais depuis, je pense, 10-12 ans qu'il a ce site-là, mmenouvelle.com, puis tout le monde le connaît, là, vraiment, ici au Québec, là, de ce site-là. C'est un peu comme le Sherdog ou le MMA Junkie, les plus gros sites web aux États-Unis qui donnent les nouvelles en temps réel.
Ah ouais.
MMA Nouvelles, c'est à peu près ça, mais en français, ici au Québec.
Ah, très cool, man. Puis comment qu'il est venu à faire votre association, vous deux ensemble?
Ben, c'est moi qui l'ai approché parce que, tu sais, LP, il a une grande gueule, puis il avait pas besoin de se contraindre à se la fermer quand il fallait pas. T'sais, moi, j'ai des choses que je pouvais pas dire parce que j'étais encore combattant ou que je travaille encore pour le UFC. Fait que c'est sûr que tu sais, bâcher l'UFC par en arrière, tu sais, des affaires de même. Fait que, tu sais, c'était plus ça, mais lui, il était comme un peu, c'était comme mon fou du roi un peu. Là, il se lâchait lousse, puis il n'avait pas peur de dire ce qu'il pensait. Puis je pense que c'est ça que le monde aimait. Mais c'est ça, l'Atlas. J'ai adoré faire ça, mais je dis pas qu'on reviendra pas.
T'es-tu un amateur de podcast? T'sais, tu me dis que tu en avais écouté une couple des miens. T'écoutes-tu sous-écoute?
J'écoute sous-écoute. J'écoute le tien aussi. Écoute, quand je suis en auto, j'en mets une fois un ou deux. Là.
C'est en train de gagner vraiment de l'ampleur, le podcast.
Oui, parce que c'est easy going, puis tu peux mettre ça partout.
Ouais. Quand tu veux aussi.
Tu peux mettre ça quand tu t'entraînes aussi. Fait que, ça passe le temps, puis c'est le fun. quand t'as de quoi à dire, là, c'est le fun d'écouter aussi.
T'avais-tu bien du reach, pareil, pour podcast québécois?
Ben, surprenamment, oui, parce que y en a parce que le site avait une nouvelle est beaucoup connu en France aussi.
On avait du monde
en Europe qui nous écoutait, des Belges, des Français qui nous envoyaient des questions, parce qu'on prenait toujours des questions puis on les répondait à la fin de notre podcast, des questions sur le MMA. Puis il y en avait, je te dirais, là, il y en avait vraiment beaucoup, là, quasiment la moitié que c'était du monde qui venait de l'autre bord là, de la France ou de la Belgique. Fait que ça, c'était vraiment cool. Fait qu'on avait quand même un bon reach.
Ouais. Ben ouais, c'est encourageant ça dans ce temps-là.
Ouais, c'est ça. Mais tu sais, en même temps, tu sais, je veux dire, ça payait pas mon loyer non plus.
Ouais, c'est ça.
Il faut que tu fasses des choix.
Ouais.
Mais tu sais, c'est ça. Mais tu sais, j'avais vraiment du fun à faire ça.
Tu sais, comme moi, mon podcast, même si ça me paye pas en cash, tu sais, ça me fait grossir mon fanbase. Puis là, quand j'annonce mes dates de show, de spectacle, ben là, le monde. Mais tu sais, tu fais pas de show nécessairement.
Pas de show encore.
Ouais,
pas
c'est encore. Ça. À moins que tu veux faire du stand-up. Tant que tu fais du stand-up.
Attends, on va faire mon triathlon premier, on verra après. Okay. Une chose à la fois.
Ouais, c'est ça. Ouais, c'est un peu moins demandant, je pense, du stand-up. Ben, malgré qu'on ne sait pas.
On verra.
Cool. Fait que là, ça, là, t'as accroché les gants.
Yes.
Ça fait combien de temps de ça?
Un an et demi, je te dirais, c'est au mois d'avril de l'année passée. Là.
Pis ça te manque-tu?
Pas en tout.
Oh non!
Zéro, ça te tente pas. Tu sais, des fois, tu retournes, pis tu sais, je vais voir des shows, des fois, live, là. Pis je décris les combats aussi du UFC, tous les combats, j'ai
ouais, c'est tes commentateurs aussi.
Ouais, depuis 10 ans pour eux autres.
Ok.
Je suis comme le Joe Rogan francophone. Ouais. Je suis comme lui. Je fais moins de cocaïne. Mais bon.
Moi, ça dope.
Moi, ça dope un peu. Mais écoute, c'est ça, pis tu sais, des fois, il dit, ah, moi, ça me manque, je retourne. Hey, moi, j'envie aucunement les deux gars qui sont là-dedans. Là. Moi, j'ai fait le tour, je suis parti sous mes conditions. C'est quand même. Ouais. Moi, je suis parti de
t'as
là. Tu
as prouvé que t'avais à prouver. Puis...
Ben, c'est ça. J'avais fait le tour, puis à la fin, ben, tu sais, je savais que j'allais plus me rendre. Je me suis rendu une fois au combat de championnat du monde, puis après, je savais que j'allais plus me rendre au championnat du monde. J'avais préparé mon après-carrière. Puis écoute, tu sais, on s'entend, on se tape sa gueule pareil. Là.
Ouais.
C'est des coups à la tête, des affaires de même. J'ai une famille, tout ça. Tu sais, que. Ça me tente d'être capable de courir après le ballon avec ma petite fille, mais qu'elle ait 5 ans, puis pas juste être un légume dans mon salon. Puis,
c'est ça.
Fais d'autres choses.
Il y a eu le frisbee.
C'est ça, tu sais. Fait que c'est dangereux. Fait que à un moment donné, fait, tu choisis ta santé à la place de ta fierté, puis c'est bien correct de même.
Ouais. Ça a-tu été dur, par exemple, de dire bye?
Ça a été ben peut-être un petit peu moins dur parce que j'avais préparé mon après-carrière. Les deux dernières années, je me battais pas parce que c'est sûr que j'étais payé. L'argent du cash tout le temps le fun.
Ouais.
Mais j'avais pas besoin de ça pour vivre les deux dernières années. Fait que c'était comme du bonus pour moi. Fait que je le faisais parce que ça me tentait. Puis encore, tu sais, j'étais encore accroché ben gros après avec ce sport-là à cause que je suis commentateur pour l'UFC. Mais c'est sûr que ça n'a pas été facile. Tu sais, je veux dire, ça a été 15 ans de ma vie. Ça. T'sais, je veux dire, jour au lendemain, tu passes à. Je m'entraîne trois fois par jour au gym. Hein, je me lève, le bébé pleure, puis le chien jappe. Parce que t'es là. OK, faut que je m'occupe, faut que je me trouve quelque chose. Fait que là, tu sais, je me suis trouvé une couple de. Je me suis reparti d'autres projets.
Ouais.
Dont la bonne idée d'un triathlon. Fait que c'est ça.
Mais je sais pas, je me trompe, mais tu fais aussi de la gérance d'artistes, je pense, d'athlètes.
J'en faisais. J'avais une petite boîte de gérance d'athlètes. J'avais parti ça avec. Des chums qui sont combattants professionnels, mais dans des ligues un petit peu plus petites. Puis finalement, ça demandait beaucoup trop de temps. Donc, pour la gérance, j'ai laissé ça aller, mais je continue à les aider pareil, un petit peu undercover. Je les mets en contact avec des contacts que j'ai parce que j'ai beaucoup de contacts dans ce monde-là.
Ouais.
Mais point de vue gérance comme tel, j'ai plus ce titre-là. Mais je continue à les aider. Je fais comme la même job, sauf en n'ayant pas le titre.
Ouais. Puis t'as ton gym aussi que t'as parti. C'est un gym d'MMA ou c'est...
Non, ben il l'a aussi. C'est un complexe sportif, je te dirais.
OK.
Donc, là-dedans, tu peux faire de l'entraînement fonctionnel, des circuit training, tu peux faire du crossfit. Là. Tout le monde veut faire du crossfit, mais personne ne sait comment faire, dans le fond.
Tout le monde veut flipper des tailles.
C'est ça, tu sais. Puis t'as un côté hors martiaux, qu'il y a des cours de jiu-jitsu brésilien, de Muay Thai. C'est un complexe qui est vraiment complet. T'as des thérapeutes qui sont là aussi, t'as des nutritionnistes.
T'as-tu un octogone puis tout là-dedans?
On a un corps d'octogone.
Ah, OK.
Ouais, c'est ça. Pas besoin de plus. Bon, quand ils voient deux, trois grillages, ils sont bien contents. Ils sentent qu'ils sont dans la cage.
Ils font comme
c'est ça.
Je fais partie de la game.
C'est ça.
Ah, mais c'est cool, ça, man. Puis ça, commentateur, ça fait longtemps que tu fais ça.
Ça fait 10 ans. Ça fait depuis que Georges Champ Saint-Pierre a défendu son titre. Non, il est allé rechercher son titre contre Matt Serra ici à Montréal à l'UFC 83.
Holy shit, ok, ouais, fait que ça fait longtemps.
C'est en avril 2008, si je ne me trompe pas. Ouais. En avril 2008. Fait que ça fait 10 ans cette année. Fait que on a fait le calcul quand même assez vite. Là, mm-hmm. On a commenté presque plus que 250 shows, plus que 2750 combats à peu près. Fait que on a fait pas mal. Fait que non, ça c'est cool. Puis depuis TVA Sport est arrivé, on est rentré là. On a fait 3 ans à TVA Sport. Puis depuis ce temps-là, on les a toutes faites de A à Z. Puis après ça, ben, on est allé à RDS parce que TVA Sport avait plus d'argent pour payer pour ça.
Ah ouais?
Fait que c'est pour ça. Donc on est rendu à RDS, puis on est super contents. RDS, écoute, c'est une grande famille, puis on adore ça être là.
Ah, très cool. Puis là, tu vas-tu dans... maintenant, tu te déplaces-tu, toi, pour aller sur live, voir des spectacles?
Avant ils nous faisaient voyager un petit peu. À cette heure, ouais. ils ont fait des coupures. On a voyagé quand George se battait. Quand il s'est battu à New York, on est allé.
Okay.
Quand il y avait eu l'UFC 200 à Vegas, on était là aussi. Mais quand c'est juste des gros événements comme Georges, sinon on fait ça en studio aussi.
Ouais.
C'est bien correct, on fait à peu près une quarantaine de shows par année, c'est à toutes les fins de semaine.
Mm-hmm.
À un moment donné, là, ça fait pas mal du voyagement, fait que c'est bien correct. On fait ça à RDS. Puis, ben,
mais en même temps, le UFC, il doit avoir gagné beaucoup dans la popularité au Québec.
Oui, écoute, c'est sûr que Georges, il est pour beaucoup là-dedans. Là,
ouais.
Il a fait gagner en popularité. Moi, j'ai fait ma part, c'est sûr et certain.
Mm-hmm.
Mais quand Georges est parti, là, 4 ans, là, il est revenu. Là, mais quand il est parti, ça a donné quand même un coup. Puis pas juste au Québec, au Canada au complet. Là,
okay.
C'était l'icône.
Ouais, ouais.
Moi, j'étais encore mondial, là. Moi, j'étais encore là, mais j'étais un peu moins cut. C'était moins spectaculaire. Mais tu sais, genre, c'est comme Superman. Fait quand il est parti, ça a donné quand même un coup. Mais là, il est revenu. Puis tu sais, là, à cette heure, t'as Olivier Aubin-Mercier qui s'en vient, qui pourrait prendre la relève assez facilement. Il est mm-hmm. super bon. C'est un Québécois aussi.
Ouais,
fait
ouais.
que tu sais. C'est ça. Fait qu'il y a un développement, puis l'organisation TKO qui était disparue aussi, qui c'est une organisation vraiment de développement.
Mm-hmm.
Puis tu sais, on a tout passé par là. Moi, Georges Saint-Pierre, David Loiseau, tous les grands Canadiens qui se sont battus au UFC, on a tout passé par là, puis était parti. Après, là, TKO était parti pendant 8 ans. Puis là, ça vient de revenir. Fait que là, c'est une bonne vitrine pour ceux qui veulent percer, pour montrer qu'est-ce qu'ils savent faire, puis qu'ils sont capables de se battre à quelque part au moins.
Puis comment ça que ça avait parti, TKO?
Bon, écoute, c'est une question de sécurité. Sécurité, je pense, pour,
oh ouais. okay.
pour ceux qui étaient en arrière, mais écoute, comme à la boxe, je veux dire, il y a de la gamique en arrière de ça.
Okay,
je pense dans ce temps-là, c'était plus le temps qu'il y en a qui s'effacent pendant un bout.
Ah ouais, à ce point-là.
Ouais,
c'est un peu comme la mafia qui te crisse une tête de cheval dans ton lit.
Ouais, c'est ça. C'est à peu près ça, je te dirais.
All right! Mais gars, moi non plus, je poserais pas trop de questions pour que quelqu'un cogne à ma porte.
On sait de quoi qu'on parle.
Cool. Puis toi, c'est ça, c'est de même que t'as commencé par TKO. Mais avant ça, qu'est-ce qui t'a donné le goût de faire...
Tu comprendras pas. Puis moi non plus, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Mais moi, je voulais être golfeur professionnel quand j'étais jeune.
Ah,
J'ai joué au golf à assez haut niveau quand j'étais petit. Puis après ça, j'ai fait du judo aussi, mais à un moment donné, fouille-moi où que la cassure s'est faite, là, je me suis en allé dans le combat à place de jouer au golf.
Il y a une différence entre battre des balles.
je suis rentré dans l'armée aussi à 19 ans, puis là, j'ai commencé à boxer là, pendant que j'étais dans l'armée. Fait que là, j'ai progressé quand même assez facile. Puis après ça, ben là... Tout a découlé par la suite. Là,
ouais, ouais.
Mon premier combat amateur, je me suis rendu là, je me suis fait péter à gueule, puis pas à peu près.
Oh, ouais.
Je suis tombé en amour pareil avec le sport. Mais écoute, ça n'avait pas d'allure. Sérieux, j'étais probablement le pire combattant qui a existé.
Oh, ouais.
Au début, là, j'avais aucune qualité innée en moi. Là.
Puis pourquoi tu faisais trop à ta tête ou t'avais
pas une bonne
préparation?
Ah non, j'étais juste pas bon. J'étais juste poche. C'est juste ça. Il n'y a pas d'autre raison que c'est ça.
Ah ouais. Ben en humour, c'est un peu ça aussi. Tu sais, comme tes premiers shows, tu te casses la gueule, mais toi, c'est littéralement t'as pas
c'est
cassé
ça. Mais tu te casses la gueule pour vrai. C'est ça.
Ah ouais. Puis après ça, tu sais, t'as pas décidé de laisser faire, t'as décidé de continuer, puis c'est quoi le cheminement, tu sais, de passer ton premier au deuxième, tu sais?
Ben, écoute, je me suis trouvé une équipe à Québec qui s'appelait Team Union, puis eux autres m'ont pris vraiment sous leur aile parce que, tu sais, j'étais pas bon, mais je voulais apprendre.
Mm-hmm.
Je reste tout le temps au gym, puis je donnais beaucoup de mon temps au gym pour apprendre. Fait qu'ils ont vu un. je sais pas ce qu'ils ont vu, mais ils ont vu quelque chose. Puis, ah, ouais. Mané, faut bien que je lui donne crédit. Ça a marché, Mané, puis ça a débloqué. Puis c'est ça. Fait que, tu sais, là, j'ai commencé professionnel dans tes coachs. Je suis devenu champion canadien. Puis après ça, je me suis battu au UFC 50 en 2004. Puis après ça, ben, c'est l'histoire qui suit. Là.
Ah ouais, ben c'est ça. C'est cool parce que, man, après ton. Ça fait quoi? T'avais 5 combats. Puis t'étais déjà dans l'UFC en main event contre Tito Ortiz.
Ouais, exact. C'est le gars qui était sur mon screensaver d'ordinateur dans ce.
Ben ouais, ben c'est un gros nom, ça.
Ben, j'étais pas supposé me battre contre lui, OK? Pour vrai. Ouais. Moi, j'étais supposé me battre le premier combat de la sous-carte, 4 jours avant, contre un gars qui s'appelait Marvin Eastman. Puis là, le gars qui se battait contre Tito Ortiz s'appelait Guy Mesger, puis il a une stroke, là. C'est un anévrisme, je pense que ça se dit en français. Pis,
ah, ben non.
Puis là, il cherchait quelqu'un pour remplacer à 4 jours d'avis pour se battre contre Tito Ortiz. Puis il y a juste moi, le cave, qui a accepté, parce que sûrement, ils ont passé tout le roster avant moi, parce que moi, j'étais un nobody.
Ouais.
Puis ils sont rendus à la fin de la ligne, puis ils étaient rendus à la fin du bottin. Ils disent, bon, on va essayer pas de côté. Ouais. Donc là, ils m'ont appelé, puis on a dit oui tout de suite. Fait que c'est ça.
Fait que penses-tu que c'était, même encore aujourd'hui, penses-tu que c'était un bon move d'avoir fait ça? Ou...
On se parlerait pas aujourd'hui si j'avais pas accepté ce combat-là.
Ouais, c'est ça.
C'est sûr, certain. Tu sais, la chance, moi, je crois pas à ça. Tu prends, t'as des opportunités, t'es prêt ou t'es prêt pas.
Ouais.
T'sais, fait que, t'sais, ils m'ont appelé, si j'avais dit non, ben, tu sais, je suis pas sûr qu'on se parlerait aujourd'hui. J'aurais pas eu cette carrière-là. Même si, tu sais, perdre ce combat-là, c'est la meilleure affaire qui m'est arrivée dans ma vie. Puis perdre de cette façon-là, tu sais, j'ai fait mon nom avec ce combat-là. Je suis sorti de là complètement défiguré. Tu sais, j'ai reçu 300 coups de coude dans la face, je pense, dans ce combat-là. Mais j'étais content pareil. J'étais debout, puis j'étais pas supposé rester plus que 30 secondes. Puis je l'ai rendu jusqu'à la fin. Puis that's it, tu sais. Puis Tito Ortiz qui était à côté de moi, puis j'avais l'air d'un enfant, là. Il me donnait la main à la fin. Il disait, t'as un cœur gros comme la terre, mais t'es pas dans la bonne catégorie de poids. J'ai dit, OK, check-moi la face, je pense que j'ai compris. c'est ça. Après ça, je suis descendu à 185.
Puis c'est, maintenant, tu sais, c'est quel ça laisse de faire ce sport-là? Tu sais, parce que là, t'as accroché les gants, là. Tu sens-tu qu'aujourd'hui, ça t'a laissé des séquelles?
Ben, mon corps, évidemment, il est bien plus vieux. Je me suis fait opérer 11 fois, moi. Je me suis fait opérer 8 fois dans les genoux.
OK.
2 fois dans la main. Je me suis fait nettoyer 2 fois le coude aussi.
Nettoyer le coude?
Ouais, ben, tu sais, c'est parce qu'à un moment donné, tous les boxeurs, souvent, ils arrivent, là, que ça fait ça. C'est qu'il y a des éclats qui s'en vont dans ton coude, dans la nature. Fait que t'es plus capable de déplier ton bras. Fait qu'il faut qu'il ouvre puis qu'il aille
nettoyer, gratter, ouais,
nettoyer ça. T'sais. Fait que c'est sûr que, tu sais, mon corps a 70 ans. Là, si je me lève le matin, c'est pas tout le temps facile. Là, puis j'ai pas 40 ans, mais je sens que c'est rough. Des coups à tête, écoute, moi, je me suis jamais fait knocker, perdre conscience solide là, pendant mes 15 ans de carrière. Sauf que mes 2 derniers combats, je me suis fait plier, je vais faire plier les genoux, je me suis fait plus cogner que dans mes 15 dernières années. Puis c'est pas parce que mon menton est plus bas et moins bon, c'est parce que les coups, j'y vois plus venir.
Ah,
tu ralentis avec l'âge. Fait que c'est sûr qu'il y a les séquelles, les coups à la tête. Puis à toute fois, j'oublie quelque chose, ou ben non, je manque quelque chose, je fais tout le temps la même joke. Je dis, ah, les coups à la tête, ça vient me chercher. Tu sais, veux pas, c'est sûr que. C'est sûr que j'ai des séquelles de ça, mais tu sais, j'ai jamais eu de grosses commotions. Là, une encarte à temps, en convulsion, la bave qui coule.
Ouais, c'est ça. Maintenant, le UFC comparé à, je sais pas, le hockey, le football, la boxe, c'est-tu aussi pire?
Ben, écoute, c'est sûr que c'est un sport violent, on se tape sur la gueule, c'est sûr et certain. Là. Sauf que, tu sais, moi, j'ai tout le temps la même chose. Le monde trouve ce sport-là, c'est un sport violent, oui, mais c'est 2 gars entraînés qui sont volontaires qui sont là. Quand tu regardes au hockey, le gars qui arrive fait un cross-check blindside, moi, je trouve ça bien plus violent que 2 gars qui se tapent sur la gueule et qui veulent se taper sur la gueule.
Ils se sont préparés.
Et l'autre qui donne un coup de bâton dans les jarrets et qui n'a rien vu. Ça dépend de ta perception, mais c'est sûr que si tu t'arrêtes à 2 gars d'une cage qui se tapent sur la gueule, d'après moi, tu n'aimeras pas ça.
Ouais. Mais si tu prends le temps de regarder et de comprendre le sport, tu vas voir qu'il y a un gros respect entre les 2 adversaires.
Oui, puis le sport a tellement changé aujourd'hui. C'est sûr que ça a été mal vendu au départ. Là. Au début, tu avais... le karatéka de 145 livres se battait contre le sumo à l'autre bout. Tout le monde qui savent de quoi je parle, là, ils vont avoir l'image tout de suite. Là, le karatéka, il avait kické dans la face, puis le dent qui avait revolé à l'extérieur.
Premier
match. Puis tu sais, okay, pire que ça, m'a conté l'histoire de comment l'UFC a commencé.
Ben oui, vas-y.
Au début, c'est RDV. RDV, c'est lui qui a parti de l'UFC. Et lui, c'était en 93, puis il voulait que... il voulait trouver le meilleur combattant dans le monde. Puis, il voulait vraiment que ça soit pas des combats à mort, mais il voulait pas que personne se sauve de l'octogone. Puis, au début, Ils voulaient mettre des crocodiles autour de l'octogone. Ils
ben
voulaient
non.
mettre des crocodiles, ben une rivière avec des crocodiles autour pour être sûr que personne se sauve. Puis, tu sais, quand tu regardes sur YouTube, tu peux aller voir, ils ont fait un documentaire sur les 20 ans du UFC. Aujourd'hui, ça fait 25 ans que ça existe. Mais voilà 5 ans, ils ont fait un documentaire sur là-dessus. Puis tu peux aller voir sur YouTube, c'est le documentaire les 20 ans.
Ben,
puis au début, ils montrent, il y a encore le schéma de ça. Il y a l'octogone avec des crocodiles ici autour.
Puis il y a quelqu'un qui a fait, ben non, on peut pas faire ça.
Ouais, quelqu'un qui a levé la main et disant, je pense, c'est pas, je suis pas sûr. Si, pas on veut que ça soit, si on veut que ça soit accepté.
Concept, il est bon, mais ça, je suis pas sûr.
T'sais, la cage est correcte, mais bon, les crocodiles.
Il va y avoir des lions. Il y a des lions qui vont sortir. Le gars, il trippe trop ses gladiateurs.
Ça va aller,
non, ouais, mais c'était fou. Hein. Dans mon chum m'avait montré un des premiers UFC. Il y en avait un que. Tu sais, il n'y avait pas vraiment de règles, je pense.
Il y avait trois règles.
OK.
Écoute, ben ça, c'est bien comique. Tu n'avais pas le droit de mordre, tu n'avais pas le droit de graffiner et surtout, tu n'avais pas le droit de rentrer ton doigt dans aucun orifice du corps.
Ah ouais.
C'était ça.
Oh ouais,
que ça soit
le
nez
yeux,
ou le tout de gueule, écoute, c'est choisi, mais tu n'avais pas le droit. Fait que c'était ça, les trois règlements. Puis la première fois qu'il y a eu un quatrième règlement, c'est ouais. à l'UFC 4, je pense. C'est Tank Abbott, parce qu'à l'UFC 3, il avait essayé de picher à l'extérieur de la cage. Puis la cage n'était pas à 6 pieds, dans ce temps-là, il était à 4 pieds. Puis au rendu à l'UFC 4, il avait mis ce règlement-là. T'as pas le droit de pitcher ton adversaire à l'extérieur
non,
de la cage. Tu sais, ça a commencé assez raw, là. Ça a commencé assez au début. T'sais.
En même temps, je me dis, hey, le gars qui gagne parce qu'il a rentré son pouce dans le cul d'un gars... Hey Chris, faut le faire.
Ouais, c'est ça. Je sais pas si tu le félicites ou tu sers pas en main. Ça, c'est sûr et certain.
Ouais, tirer l'autre mère, là. T'inquiète, va te faire le fist bump. C'est très cool. Mais c'est ça, tu sais, on dit que c'est un sport violent. Tu sais, mettons, toi, pas de côté, quand tu revenais dans ta vie de tous les jours, c'était quoi la charge des épaules de défendre ton sport à ceux qui le comprennent pas, tu sais?
Tu sais, j'ai jamais essayé de défendre mon sport. J'ai tout le temps accepté que le monde, tu sais, c'est pas fait pour tout
ouais,
le monde.
Ouais, il y en a qui le comprendront.
Mais au moins, de respecter les athlètes qui sont là. T'sais, surtout aujourd'hui, tu peux pas te
rendre c'est
là.
Des athlètes, là.
Tu sais, faut que tu t'entraînes aussi fort que du monde qui vont aux Jeux Olympiques. Pour vrai, c'est de l'entraînement à temps plein si tu veux performer à ce niveau-là. Puis j'ai tout le temps la même chose. Tu sais, moi, le patinage artistique, là, j'haïs ça. Je suis pas capable d'écouter ça. Mais faire un triple lutz, pas capable de le faire, moi. Fait que, tu sais, le gars qui va faire des pirouettes dans les airs, même si j'haïs ça, même si je trouve que son habillement, tu sais, ça y fait pas bien, whatever, tu sais, je peux pas dire que c'est cave, ce sport-là.
Ouais.
Tu sais, il fait des affaires assez exceptionnelles que moi, je suis pas capable de faire. Fait que c'est un peu la même chose de mon bord. Fait que, tu sais, je disais juste, regarde, t'as le droit. Mais on n'est pas tous des caves là-dedans. Mm-hmm. T'sais, je veux dire, avant, tu pouvais mettre un goon de hockey face à un portier, puis le monde allait là juste pour voir un gars qui allait se faire patiner le nez.
Ouais.
Aujourd'hui, c'est plus de même. T'sais, aujourd'hui, c'est des athlètes incroyables, des anciens Olympiens qui sont là. T'sais, fait que c'est juste ça. T'sais, bottom line, c'était juste aller de respecter les athlètes qui étaient là-dedans.
Mm-hmm. Ben oui. Puis puis l'évolution de tout ça, parce que toi, tu as commencé d'un début au Québec, là, tu sais. Puis ouais. C'est quoi l'évolution que.
Ben, regarde, je vais juste te dire, mon deuxième combat professionnel, je me suis battu au Colibri à Victoriaville. OK, ça, c'est l'hôtel. Puis on se battait dans le sous-sol.
Ah ouais.
Dans le sous-sol de l'hôtel Colibri. Puis on n'avait pas le droit de soulever notre adversaire, puis sinon, on pognait les jinxers en haut. Fait que, tu sais.
Ah, sacrément.
Puis ils en ont fait un autre après. Puis il y a un gars qui l'a levé, puis il a pogné les jinxers, puis ça a tout parti. Fait que tu vois, ça a parti de là, puis ça s'est rendu jusqu'à dans des shows comme à Toronto ou en Australie qui ont rempli 55 000 personnes à l'UFC. T'sais. Fait que t'sais, c'est sûr que ça a commencé à quelque part d'assez raw, mais il fallait que ça commence à quelque part.
Ben oui. Puis c'est quoi les sacrifices, ma tante, qu'un combattant il doit faire pour pouvoir accéder à un match en main event là, ou pour la belt là,
ben les sacrifices c'est sûr que si tu gagnes ça va bien là.
Ouais.
Tu vas commencer à monter mais
j'imagine que tu as dû sacrifier quand même beaucoup d'affaires pour pouvoir te rendre où
c'est c'est sûr c'est plus au niveau du côté social surtout l'été moi, j'essayais de me battre le moins possible l'été parce que ça fait chier. Là, t'arrives à quelque part, t'es à diète, tout le monde est sur la bière, puis sur le barbecue, les saucisses, les burgers, puis toi, tu manges ton brocoli. Là, et tu vas tous les envoyer chier, pour vrai. Là. Fait que, ça, point de vue sociable, c'est sûr que tu te coupes un peu du monde social. Tu sors pas avec tes chums, t'es plus souvent à la maison. Fait que t'es plus... t'es plus vraiment focusé. Je dirais un training camp, c'est peut-être un 2 mois avant le combat, puis après ça, ben, tu peux reprendre ta vie normale, mais ça revient toujours, c'est un cycle.
Mm-hmm.
Fait que c'est plus ça. La diète, c'est jamais le fun. Ouais. Je veux dire, j'allais pas manger souvent au restaurant avec ma femme là, quand j'étais sur la diète. T'sais, moi, je marchais à 215, je me battais à 170. Fait que disons que la diète, je n'avais pas le droit de me mettre cheaté à quelque part. Là.
Ouais, hein? Puis mettons, tu sais, c'est ça avec... T'sais, même ta femme, t'sais, as-tu faire des compromis aussi, t'sais, pour...
Ben, c'est sûr, t'sais, je veux dire, à un moment donné, ça vient quasiment comme une femme toute seule, t'sais.
Ouais.
T'sais, elle s'empêche pas de sortir avec ses amis, elle s'empêche pas d'aller faire du barbecue de quand même, t'sais.
Ouais.
Mais souvent, moi, j'aimais mieux rester à la maison, moi-même, à la place que d'aller avec tout le monde qui sont sur le party, t'sais, parce que...
Ça vient trop entraînant.
Ça vient déprimant, t'sais, je veux dire, moi, j'ai pas de fun, là, t'sais, je veux dire, je vais laisser la brosse, t'sais, sûr, tu comptes une joke, t'es un peu feeling, tu vas rire, mais c'était pas feeling, t'sais, ok, c'est pas si drôle que ça.
À fond, pas mal mes soirées. C'est ça. Tu sais, quand le monde. Puis, tu sais, tout à l'heure, si on parlait avec. Tu sais, tu t'es battu contre Tito Ortiz. Ça a été quoi? Même si tu étais à 4 jours du combat, comment tu t'es préparé pour ça? Parce que, tu sais, tu peux pas arriver puis être bandé devant lui, tu sais.
Ben, écoute, j'ai pas le temps de me préparer. Puis c'est ça la meilleure affaire qui m'est arrivée. Tu sais, j'ai pas le temps d'être nerveux. J'avais appelé mon chien Tito, moi. Ce gars-là, c'était mon idole. Ouais, j'avais un Golden Retriever qui était blond comme lui. Puis un an et demi avant que je me batte contre lui, je l'avais appelé Tito en honneur de lui. Ben, c'était comme mon idole.
Aussi bon, t'sais,
ben, oui, c'est fucked up, là. Cette histoire-là est complètement bizarre. Puis tu sais, c'était mon screensaver, ce gars-là. J'allais sur mon ordi, je le voyais à tous les jours. Puis, tu sais, 4 jours après, il était en avant de moi, il voulait me casser la gueule. Tu sais, ça a l'air niaiseux, mais j'ai pas eu le temps d'être nerveux. Fait que je pense que c'était la meilleure affaire qui pouvait m'arriver. Prêt. Mais 4 jours après, ben, j'étais le main event, mon premier combo UFC, le premier Québécois qui s'est battu au main event dans l'action de l'UFC. Et c'est. Je pouvais pas demander mieux. C'est sûr que. Puis, tu sais, même si j'avais gagné là, aujourd'hui, on se parlerait peut-être pas non plus. J'étais pas dans la bonne catégorie de poids. Puis, dans ce temps-là, Tito Ortiz était encore au top. Fait que, tu sais, je l'ai sonné à 30 secondes du premier round. C'était pas relevé.
Ouais, c'est ça.
Tu sais, j'aurais été content, mais j'aurais été dans la marde, pour vrai. Là. Parce qu'après ça, tu avais Randy Couture, tu avais Chuck Liddell, tu avais Vitor Belfort qui était tout là. Hey, j'étais pas prêt pour ça.
Hey, c'est ça, c'est dans ce temps-là. Hey,
j'étais pas prêt pour ça, moi, là, dans ce temps-là. Là. Tu me mets contre Chuck Liddell, on aurait une couture. Là.
Ah, ouais.
Puis ça, il m'a fait violer. Là.
Des astis de beast.
Surtout dans ce temps-là, j'étais pas rendu à ce niveau-là. Ouais. Fait que, tu sais, c'est comme je te dis, ce qui est arrivé, c'est la meilleure affaire.
Puis après ça, puis en même temps, ça, tu perds contre lui, c'est sûr, mais c'est un honneur, peu importe. De gagner ou de perdre parce que tu t'es battu contre, là, tu t'es rendu jusque-là. Mais tu sais, quand tu perds, par exemple, c'est quoi? Tu sais, à combien ça t'affecte dans ton mental? T'sais? Pas juste lui, mais tu sais, quand. Ouais. Peu importe les combattants, là, je parle. Là,
ben, tu sais, moi, j'ai toujours dit, j'haïs plus perdre que j'aime gagner. Là, ouais. Parce que, tu sais, avec le travail, tu sais, je travaille avec des psychologues sportifs là, à la fin de ma carrière. Avoir su, j'aurais fait bien avant là, parce que ça m'a vraiment aidé. Mais, tu sais, Jim, t'as comme une honte d'avoir laissé tomber tes partenaires d'entraînement, tes entraîneurs. Parce que moi, les partenaires d'entraînement, là, c'est pas leur job, là. Tu sais, ils venaient au gym, ils venaient m'aider, ils recevaient des coups de poing sur la gueule, ils m'en donnaient, puis tu sais, on s'entraînait fort, puis on mettait des mises en situation. Mais eux autres, ils retournent travailler après, là.
Mm-hmm.
Tu sais, ils étaient pas obligés de faire ça, de m'aider. Fait que, tu sais, à un moment donné, tu prends comme une charge sur tes épaules, tu dis, OK, au moins, je le dois ça.
Ouais.
Avec l'expérience, tu dis, tu dois pas rien à personne. Je dis, tu fais ça, puis tu t'en vas pas là pour perdre de toute façon. Là. Fait que tu te rends compte que ce que tu perds ou que tu gagnes, ceux qui restent, ben, c'est eux autres qui valent la peine. Ouais.
Parce que, tu sais, à un moment donné, moi, j'avais entendu dire que quand Georges avait perdu à un moment donné, contre un des deux matchs, je me souviens plus lequel, là, mais il avait engagé un psychologue de coup parce que tu sais ça y avait bien joué dans la tête puis il voulait comme se remettre son minding à puissance, tu sais.
Ben oui, mais tu sais, ça vient, c'est juste mental, tu sais.
Ouais. Hein?
Maintenant, tu sais, rendu à ce niveau-là, tout le monde, on s'entraîne tous de la même façon. Il y en a qui ont de meilleures qualités athlétiques, peut-être à gauche, à droite, mais on fait toutes la même chose. On s'entraîne à jiu-jitsu, lutte, puis en boxe ou en muay thai. T'apprendras pas. Je me battrai pas contre quelqu'un qui vole, tu sais. Il n'y a pas des cartes de magie. Est-ce qu'il va m'envoyer une boule de magie?
Ouais, c'est pas un Pokémon.
Non, tu sais, on n'est pas à Donjons et Dragons, tu comprends? C'est pas de même ça. marche. Fait que tu sais, rendu là, tu sais, ça revient à 80% dans le mental quand même. Mm-hmm. Je dis, si t'es capable de gérer la pression, t'es capable de. Quand t'es dans la marde, t'es en dessous, si tu paniques pas, t'es capable de te relever.
Puis mettre la confiance aussi, sûrement, tu sais.
Ben, c'est juste ça.
Quand t'embarques dans le ring, tu sais, t'es imposant, genre, mm-hmm. je sais pas. T'sais.
Ben, tu sais, ça, je dirais, c'est plus à peser la veille. Tu sais, quand t'as le face-à-face, là, il okay. y a bien des affaires qui se passent. Ouais. Souvent, t'essayes d'intimider l'autre, tu regardes dans les yeux, l'autre veut pas te regarder. Des fois, tu peux savoir, OK, j'ai peut-être gagné la petite première manche.
Okay.
Il y a bien des affaires qui se passent au face-à-face à peser.
Ah, ouais. ouais. Tu te prépares-tu, genre, juste pour la peser, genre?
Ben oui, ben ça dépend contre qui, tu sais. Ouais, des ouais. fois, tu sais que ça va brasser.
D'autres comme fois, tu sais que... Diaz, là, tu sais, qui sont super baveux.
Oh, ouais, ben tu sais, dans une méchante gang qui sont baveux puis qui essayent d'intimider, mais des fois, tu vois que c'est fake.
Ou McGregor, là, tu sais.
Ouais, des fois, tu vois que c'est fake, mais tu sais, je te dirais, lui, là, plus maintenant, là, mais tu sais, lui qui était le plus intimidant, d'après moi, là, c'était Wanderlei Silva. Wanderlei Silva, il te regardait dans les yeux, mais on dirait que tu regardais en arrière de la tête, là.
Ah, ouais.
Rentrait dedans, là, puis tu voyais le monde, puis Anderson Silva aussi, quand il était vraiment à son top, là,
ouais.
le monde, il avait quasiment perdu avant d'en rentrer dans l'octogone. Il était ouais. de même, puis il baissait la tête, tu sais, parce que c'était des monuments.
Il
t'sais.
Avait joué dans la tête.
Ouais, puis il savait comment faire.
Là, ça, on parle de poids. Toi, t'as changé 3 fois de catégorie de poids.
Ouais.
Ça, c'est-tu rough, ça?
Ouais.
Ouais, hein? Ouais, hein?
Ouais, ben oui, écoute.
Ah, ça, hein, le style balance, hein, qu'elle ouais, a chier.
Balance, ben, surtout à 170, tu sais. Mais à 170, j'ai commencé à travailler avec Jean-François Gaudreau, qui était mon préparateur physique au niveau de la nutrition pendant les 4 dernières années. Puis, écoute, quand j'ai fait, tu sais, j'ai jamais manqué la balance, jamais manqué le poids. Mais tu sais, c'est pas évident. T'sais. Quand je me suis battu à Québec pour le UFC, la finale Tough Nation, je me suis déshydraté de 26 livres en 18 heures.
Oh les fuck!
Celle-là, j'ai pas trouvé drôle. T'sais, celle-là, ben, je le trouve jamais ouais, drôle. Ouais. Là, je me ouais, déshydraté ouais. entre 20 et 21 livres, mais là, genre, on avait comme un peu manqué notre diète. Ouais. Avant.
Ok, fait c'était-tu voulu ou c'était pas tant voulu?
Non, c'est pas okay. voulu. Mais tu sais, entre 20 et 22 livres, pour moi, mentalement, je savais que j'allais le faire. J'allais payer, là, mais tu sais, ça allait pas être si difficile que ça, t'sais, mentalement. 26 livres, je te dirais que. Même si t'es le plus drôle comique, tu viens me parler, c'est sûr que je te trouverai pas drôle.
Ouais.
C'est sûr et certain.
Ben oui.
Puis je vais tout le temps me rappeler, j'étais le matin de la pesée, j'étais à 172,4, puis il fallait jouer à 170. Puis là, on fait le processus de déshydratation, j'embarque dans le bain avec ma tuque, après ça, je remets un sauna saute. Puis là, je transpire pendant 20 minutes. Je rembarque sur la balance, puis j'étais à 172,4. D'ailleurs, j'avais pas rien perdu.
Ah ouais.
Hey, mais c'est comme si tu m'avais donné un coup de batte de baseball dans les jambes. Là. Sérieux, j'étais là, tabarnak, tu me niaises, comment je vais faire? Là? Puis on partait dans une demi-heure pour aller à la pesée. Mm-hmm. Et finalement, c'est pour vrai, à partir de là, jusqu'à temps que je chasse sur stage, j'ai un blackout total. J'ai fait le poids. Mais tu sais, là, Jean-François, il a comme pris les rênes de la déshydratation. Je sais pas ce qu'il a fait, puis je me souviens plus de rien. J'ai eu comme un blackout.
Ouais.
Puis après ça, je me souviens quand je suis arrivé à l'aréna pour la peser. Mais le voyage, les derniers 2 livres que j'ai coupés, le voyage à l'aréna, puis quand je suis arrivé là, je me souviens pas de rien. J'ai un blackout.
Ouais. Puis c'est dur de vouloir être imposant quand. quand t'es déshydraté à ce point-là.
En tout cas, je te le garde avant toi. Là, fait que c'est sûr que t'as un bon poker face. Là, t'essayes. Mais t'as hâte d'aller chercher quelque chose à boire. Ça,
c'est ça. Puis maintenant, une fois que la pesée est faite, tu gagnes combien de poids? C'est quoi la différence entre quand t'embarques sur le ring?
Entre 20 et 22 livres, là, je te dirais, tabarnak. En 24 heures. C'est un autre processus. Tu peux pas te manger puis boire tout ce que tu veux. Là. C'est sûr que tu vas faire en deux. Là, c'est
genre, maintenant, tu t'es déjà préparé.
Ouais,
qu'est-ce que
tu bois? Tu bois tranquillement. Ben, pas tout de suite. Tu vas manger des fruits, des noix, des choses qui sont sucrées, qui sont faciles à ingérer. Ouais. Tu vas boire beaucoup d'électrolytes. Faut pas que tu boives trop parce que tu peux te noyer toi-même si tu fais éclater tes cellules. T'sais, c'est vraiment une science, la nutrition, la déshydratation. Tu vas faire n'importe quel cours de médecine. Mm-hmm. Tu vas avoir des cours de réhydratation. T'sais, si t'es déshydraté, on va te montrer comment faire. Mais cherche un cours de déshydratation où ça n'existe pas. Là. C'est inhumain faire ça. Fait que tu vas avec du monde qui ont de l'expérience, puis tu sais, veux pas, ils ont appris avec essai et erreur, tu sais. Fait qu'à un moment donné, c'est ça. Tu trouves ta façon de le faire, puis tu le fais.
Mm-hmm. Puis là, ça, là, on parle de préparation à la pesée, tout ça. Là, quand tu t'es battu contre Anderson Silva, Parce que, hey, tabarnak, c'était un des gros ça aussi.
Ouais,
t'sais.
Au top dans ce temps-là.
Ouais, ouais. Puis ça a été quoi ta préparation? Parce que déjà, avec la réputation qu'il y avait, c'était-tu avant qu'il se pète la jambe, ça?
Ouais, ou... c'était avant. Il était encore champion.
Ouais, hein. C'est ça, OK. Puis ça a été quoi la préparation, autant physique que mentale, ça?
Ben, physique, ça a été la même. Écoute, c'est sûr qu'on s'est préparé pour ce combattant-là. Ouais, ouais. Sauf qu'il est tellement, unique que c'est dur de. Tu sais, t'as assez tout le temps de recréer avec tes partenaires d'entraînement, ton adversaire, comment il bouge, ses mimiques, ses affaires de même. Mais quand Anderson, tu sais, tu peux pas faire ça. T'sais. Il est comme unique, là, t'sais, il bouge tellement, il est parfait. Ouais. Pis, surtout dans ce temps-là, t'sais, j'étais à l'UFC 90, puis c'était pour le championnat du monde des poids moyens à 185 livres à Chicago. Puis, t'sais, mentalement, c'est comme je t'ai dit tantôt, t'sais, là, au face-à-face, des fois, Anderson Silva, il brisait les gars déjà mentalement. Nous autres, on s'est dit, écoute, moi, j'ai pas peur de lui. T'sais, je vais y aller, je vais faire ce que j'ai à faire. S'il me knock, il me knockera. Au pire, je m'en souviendrai même pas. T'sais, t'sais, ouais. C'était vraiment ça mon approche.
Ouais.
Et je pense pour ça que j'ai bien fait quand même. T'sais, j'étais le premier où il a ça à l'amener au troisième round.
Ouais, c'est ça. Ouais. C'est fou
fait
ça.
Que,
même,
t'sais, hein. Puis, t'sais, t'es arrivé une bad luck au mauvais moment. C'est sûr.
Ouais, tu t'es blessé.
Tu t'es éclaté le genou.
Tu t'es éclaté le genou, vraiment?
Ouais, écoute, mon tibia puis mon genou sont venus côte à côte. Tac, d'une chute.
Ah ouais, fait que t'as plus de rotule.
Tout a arraché. Ben, c'est plus les ligaments.
Ah, les ligaments, OK.
Les ligaments ont tout arraché.
Ah ouais.
Fait que, tu sais, je tombais à terre, puis, tu sais, là, tout le monde était là, tu sais, ah, il a faké, là, OK, j'étais pas en train de me faire péter la gueule, là, tu sais, ça allait super bien, puis, veux pas, moi, j'étais un puncher, là. Fait que, tu sais, quand on arrive au deuxième ou au cinquième round, si je te pince, tu sais, il y a des bonnes chances, tu tombes. Fait que, tu sais, j'avais une chance jusqu'à la fin. Mais bon, tu sais, je me console en me disant que j'ai un combat de championnat du monde dans ma vie, puis il y en a bien qui n'auront
ben
pas.
Ouais. Ah, c'est fou. Puis comment tu l'avais eu, ce combat-là? C'était-tu.
J'avais une série de victoires, de 4 victoires de suite au UFC, dont 2 knockouts.
Ouais, c'est le même, ça marche. Hein?
Ouais. Puis à l'UFC 86, je m'étais battu contre un Brésilien qui s'appelle Ricardo Almeida, puis c'était pour l'aspirant numéro 1. Il nous l'avait dit d'avance.
Okay.
Puis j'avais gagné par décision. Puis à la conférence de presse après, ben, il l'avait annoncé.
Fait que toi, tu le savais que tu t'en allais quasiment pour ça. Non?
Après ce combat-là, oui, je le savais. Ouais.
OK. Ah, c'est cool. Puis ça, puis pour le mental, y a-tu une préparation de plus? Faut-tu fasses, tu sais, parce que, tu sais, sur ça, avec la réputation qu'il y avait, c'est faut pas que t'ailles peur en arrivant devant lui.
Non, c'est ça. Puis, tu sais, je pense que c'est un travail avec ton équipe aussi. Puis, tu sais, moi, je me suis toujours dit, si j'ai pas triché dans mon entraînement, dans ma diète, tout comme même, si j'arrive là.
Ouais, c'est ta mérite,
ta place. Tu sais, je veux dire, c'est parce qu'il était meilleur que moi ce soir-là. Tu sais, si je suis nerveux, c'est parce que j'ai eu un doute dans ma tête. Fait que j'essayais de pas avoir de doute en n'ayant pas triché nulle part. Fait que j'arrivais, je dis que je peux pas être dans la meilleure condition physique ou mentale.
Ouais.
Fait que, tu sais, s'il me pète, ben, il me pète. Tu sais, qu'est-ce que je te dis?
Ouais, c'est ça. Ah, fait qu'une fois que tu acceptes ça, c'est plus facile de.
Ben, moi, c'est comme ça. Tu sais, je pense pas que tout le monde est pareil, là, mais moi, c'est
OK. Puis là, quand tu t'es blessé, ça a été combien de temps de récupération? Ça,
ça a été un an et demi de récupération et qui est 65 livres.
Ah oh, ouais. T'avais-tu peur de ne pas pouvoir en revenir?
Ben oui, parce que je me l'ai pété deux fois le genou parce que 3 mois après, mon genou il a relâché. Fait, il a fallu me reconstruire le genou encore. T'sais, mon doc Sébastien Simard, il me connaît par cœur, là, je dis, il m'a opéré 11 fois, qui est devenu mon bon ami parce que je pense que c'est le gars là, qui m'a vu plus souvent tout nu dans ma vie. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, des grosses blessures de même, tu sais pas jamais quand tu vas revenir. Puis c'est surtout mental. T'sais, un coup, ton corps est correct, c'est ton mental. Tu veux pas faire trop de mouvements brusques. Puis, là, ils disent tout le temps, fais attention parce que tu vas moins bouger, fais attention à ce que tu manges. Je suis monté à 250 livres. J'avais plus de place dans ma face là, pour mettre rien. Là. J'étais enflé de même. Mais bon, fait que, à un moment donné, là, quand j'ai recommencé, ben, ça, j'ai quand même perdu ça vite. Là, mais les blessures, c'est ça qui fait chier le plus là, pour moi. Là.
Ouais, ben oui, surtout, ça fait peur. Moi, je me suis pété le genou une fois. Puis je cours même plus.
Prends plus de chance.
Moi, j'ai me fait mal à rien. Mais moi, je suis dans le bon domaine.
Chacun
moi,
son métier.
Je ris du monde, je ris de moi. Je suis là et je bois de la bière. Je suis dans la bonne place. Ouais, ça, là. Toi, vu que tu étais dans l'UFC, puis c'est quoi l'évolution que le UFC a eue? Tu sais, c'est comme depuis le début, ça y a-tu de quoi qui a changé?
Ben, écoute, oui, parce que, tu sais, en 93, ça a parti, puis là, en 2002, les francs-fertistes l'ont acheté pour 2,2 millions.
Oui, c'est vrai.
Fait que là, après ça, ils ont perdu de l'argent jusqu'en 2005. Jusqu'en 2005, là, ils perdaient des millions et des millions à chaque année.
Puis comment ça?
Puis, ben, parce que c'était juste pas rentable. Ils n'avaient pas été capables de mettre ça dans la télé
populaire,
naturelle. Ouais, télé populaire, exact. Ouais. Fait que, ils ont failli fermer la compagnie. Ça a passé à une nuit de fermer la compagnie parce qu'ils étaient supposés la fermer. Puis finalement, Lorenzo Fertitta, qui était le grand boss avec son frère Frank, ils ont dit « OK, attends un petit peu, laisse-moi dormir là-dessus, puis demain, elle m'a pensé à ça. » Puis le lendemain, ils ont eu l'idée de faire la première saison de Ultimate Fighter, la première saison, en 2005. Puis c'est ça qui a sauvé le UFC. Parce que là, le monde a pu voir, puis c'était à Spike dans ce temps-là, puis le monde a pu voir comment que les gars ils s'entraînaient, puis ça a quand même été une télé-réalité assez hardcore, parce que oui, il y avait des combats, mais les personnages qui étaient dans cette émission étaient vraiment hardcore.
C'était
chaud, ça se battait.
Puis t'avais aussi, quand ils étaient dans les manoirs, là, dans les maisons,
ouais, c'est
fait que là, tu t'avais vraiment des personnages.
C'est
là,
ça, t'sais. Tu voyais le backstage d'une vie de combattant. Puis, tu sais, le combat final, Stephen Bonner contre Forrest Griffin, encore aujourd'hui, c'est un des meilleurs combats de l'histoire.
Ça a saigné, ça, hein?
T'avais pas de bon sens, sérieux. T'avais pas de bon sens. Si tu le regardes encore aujourd'hui, tu te dis, voyons là, comment ils font pour rester debout.
Ah ouais.
Puis, ce combat-là a sauvé le UFC vraiment, là. Parce que c'est celui-là qui a sauvé, sinon, ça fermait. Puis, après ça, ben, le monde, ça a comme eu un grand engouement à cause que le monde avait écouté ça à Spike. Puis là, ils sont rendus à la 29e ou 28e saison, plus les saisons qui n'ont pas eu de numéros. Fait que sont rendus quasiment à la 32e saison d'Ultimate Fighter, que moi j'ai participé à deux fois là-dedans.
Ben ouais, c'est ça. C'était comment d'être un coach? Parce que tu représentais Team Canada.
Ouais, hein, ben moi j'ai participé à la saison 4 en premier comme fighter.
OK.
Je me suis rendu en finale, j'ai perdu en finale. Puis, tu sais, c'était écœur, hein, tu sais, je veux dire, on restait dans un mansion de 3 millions à Vegas, on s'entraînait deux fois par jour avec les meilleurs au monde, puis tu sais, on mangeait ce qu'on voulait, on avait une espèce de wish list, on marquait des steaks à 45$, on avait ça deux heures plus tard, tu sais, c'était une limite, là.
T'sais. Ah ouais.
Puis tu sais,
il y avait du budget là-dedans.
Il y avait surtout beaucoup d'alcool aussi, tu sais.
Ah ouais.
On s'est arraché là-dedans, là, tu sais. Moi, j'ai gagné mon premier combat, puis tu sais.
Eux autres, ça leur faisait des bonnes histoires.
Ben oui, ben oui. Puis moi, je suis content parce que. Ben, je suis content et pas content parce qu'à ce temps, tout le monde peut le voir sur YouTube. Là, tu parles Patrick Côté Drunk, tu peux le trouver. Mais ils l'ont jamais passé à télé nationale parce que c'était sur les deleted scenes sur le DVD.
OK.
Mais il y en a un qui l'a mis sur YouTube, évidemment. Je suis complètement arraché. Je suis arraché. Ça dure 2 minutes et demie. Je chante, j'envoie chier tout le monde. Mais tu sais, je suis un happy drinker. Je parle de Georges Saint-Pierre qui est un bon combattant, mais c'est le pire cornerman ever. En tout cas, c'est hilarant pour moi. Puis je suis traversé. Là. Puis c'est ça.
Tu as-tu reparlé de ce moment-là avec GSP?
Ah oui, mais tu sais, c'est légendaire. Cette côte-là, c'est légendaire. Là, c'est en 2006. Là, fait que ça a fait le tour. Là, ça a fait pas mal le tour. Fait que c'est ça, je m'étais rendu en finale. J'avais perdu en finale.
Ouais.
Mais c'est ça, en 2013, il a fait. Canada contre Australie. Puis moi, j'étais le coach, justement, de Team Canada.
Puis ça avait bien gagné. Hein?
On les a défoncés.
On a tout
gagné. Puis tout. Je pense qu'il y a juste deux Australiens qui ont gagné un combat en préliminaire. Puis après ça, ils ont perdu. Puis c'était juste des Canadiens qui étaient en finale.
Ouais. Même, tu avais dit dans une entrevue que tu étais stressé parce que les deux combattants avant toi, les deux Canadiens avaient gagné.
Ben oui.
Fait que là, toi, tu étais comme Chris, je suis le coach. Faut que je gagne.
C'est ça, tu sais, parce que on avait balayé la saison, tous les Canadiens avaient gagné, puis moi, j'étais comme.
T'as de la pression.
Après ça,
là.
Les deux coachs se battent, j'étais, faut pas je perde, ça va avoir la carte. Finalement, ça avait bien été, j'avais gagné.
Comment t'avais trouvé ça d'être coach?
C'était cool, sérieusement, c'est bien plus de job que juste être participant là-dedans. Mm-hmm. T'sais, faut mettre les trainings, après ça, faut faire des entrevues, faut que tu t'adaptes à tout le monde, à tous les petits besoins. Ouais. Pis,
c'est du sérieux, là.
Ben oui, c'est du sérieux aussi, tu sais, parce que à cette heure, tu sais comment c'est populaire, puis tu sais, veux pas. Tu sais, je suis pas très patriotique, là, mais quand même, tu sais, on était Team Canada, tu représentes ton pays contre une autre nation, puis eux autres, ils s'en venaient chez nous en plus, tu sais, c'était tourné à Latuc, là, t'sais, belle place très populaire. Mais tu sais, on tournait ça à Latuc. Fait que c'était important pour nous autres de bien performer.
Mm-hmm. Toi, tu viens-tu de Latuc?
Non, non. Moi, je viens de Rimouski.
Tu viens de Rimouski?
Moi, je viens d'un petit village d'à peu près 600 à 700 habitants.
Ah ouais?
Perdu. Tu cherches mon village, tu continues tout droit, tu te perds, continue, t'es pas arrivé encore. un coup, tu te rends, t'es perdu, là, tu vas arriver à mon village.
Ah ouais?
Ah, c'est dans le fin fond des terres. Ça s'appelle Saint-Narcisse, mais c'est le
meilleur. Saint-Narcisse?
Saint-Narcisse de Rimouski.
Tabarnak.
Ouais, c'est après Sainte-Blandine. Puis, après.
Sainte-Blandine,
Saint-Anatelet. Tes autres.
Tu sais qu'ils vont chercher ça, ces hosties de noms.
Je sais pas, mais tu sais, il va dire de quoi. Moi, c'est plus le monde qui reste ça. C'est le meilleur monde au monde. Les meilleures personnes au monde sont super gentils, accueillants.
Ils ont pas le même rythme de vie. Là.
Ils barrent pas leurs portes là-bas. Là,
non, ouais.
Ils s'en foutent. Là. Mais tu te dis, comment t'as fait pour arriver là?
Ouais.
Comment t'as fait pour arriver à cette place-là? T'sais, à Saint-Narcisse.
Mm-hmm.
Là, tu te dis, ok, c'est. Mais. Tu sais, j'essaie d'y aller à toutes les années parce que ma famille est là-bas, la famille du coup,
ouais, c'est ça, ça a resté là.
Puis c'est sont super cool. Là, ouais. Puis eux autres, ils ont bu longtemps de la Wildcat parce que c'est pas parce qu'ils l'aimaient, c'est parce que c'était à moins cher. Parce qu'ils en boivent en style de la bière.
Ben, c'est cool quand tu retournes dans le coin, ils font-tu comme waouh, tu sais.
Ben, c'est sûr que c'est un événement. Là. Je veux dire, moi, je viens de là, puis comme je te dis, 650, 700 habitants là-bas. Ben quand j'arrive,
en plus,
c'est pas mal lissable.
Non, puis, le UFC, ça a fait le tour du monde. Là,
ouais,
fait
c'est, là, c'est, le monde. Tout le monde me connaît dans ce petit village-là. Fait que c'est sûr que quand j'arrive, c'est un peu comme une grosse vedette arrivée à quelque part, mm-hmm. c'est beaucoup plus petit. Là,
ouais, c'est ça.
Eux autres, ils me klaxonnent pas en Lamborghini, ils me klaxonnent en tracteur, en tracteur à gazon. Là,
ou avec un cheval. Là,
c'est ça.
Ah, cool, man. Puis, ouais, c'est ça. Fait que ça, là, t'étais coach à Ultimate Fighting, puis tu disais que c'était vraiment pas la même game de être coach versus être un des fighters.
Non, parce que quand t'es fighter, tout ce que t'as à t'inquiéter,
c'est
d'être en shape,
okay.
manger, puis dormir.
Puis boire un peu.
Puis boire un peu, exact. Puis essayer de pas trop être hangover après, mais tu sais, quand t'es coach, il faut planifier les trainings. Tout là, mm-hmm. c'est vraiment plus de job, mais tu sais, c'est pas si pire que ça quand même.
Okay. Puis t'avais bien aimé ça?
J'ai adoré ça.
Ouais.
Je l'ai toujours dit, là, s'ils me demandaient de le refaire, je le referais demain matin. Là,
okay.
J'avais vraiment aimé ça.
Même si t'as accroché les gants.
Ouais, là ils m'inviteront plus. Là. Ça, c'est fini.
Ouais.
T'sais, après, t'sais, j'avais dit, si ils me le redemandent, mm-hmm. beaucoup de monde dit, tu le referais-tu? Je le referais demain okay. matin. Là.
Ouais. Puis là, maintenant, si on parle plus du UFC, tu vois, il y en avait un qui avait posé une question dans les commentaires, puis il disait, tu demanderas comment que Dana White traite ses employés versus ses combattants. Il y a de quoi que une face cachée de la UFC que le monde ne savent pas?
Non, mais tu sais, Dana White, c'est un businessman. Il va prendre soin de toi si tu peux lui ramener de l'argent.
C'est ça.
C'est comme ça. T'sais, moi, t'sais, le meilleur exemple, c'est que moi, je me suis battu pour le championnat du monde à l'UFC 90. Je me suis pété à la jambe. Après ça, je suis revenu un an et demi après. Puis là, j'ai perdu mon premier combat de retour. Après ça, j'ai perdu mon autre combat. Puis, tu sais, je m'étais battu au championnat du monde deux combats avant. Puis, ils m'ont sacré dehors.
Mm-hmm.
Tu sais, après ça, je suis revenu en 2012 au UFC pour finir ma carrière là. Mais, tu sais, ils m'ont sacré dehors. Fait que là, j'ai compris, sacrément. Avant d'être mes amis, c'est mes boss. Là,
ouais.
là tu t'en rends compte.
Ouais, t'sais. C'est ça. Hein.
Mais, tu sais, c'est un businessman. Puis, tu sais, le gars, il est là pour parler. Puis, tu sais, il a pas peur de rien dire.
Mm-hmm.
Tu m'as dit, ce gars-là, je pense, avec la vente du UFC, quand ils l'ont vendu, l'année passée, ou il y a deux ans, je me souviens plus, là, ils l'ont vendu pour 4 milliards. Là,
ouais.
Lui, il avait 9% de ça. Il a fait 390 millions. Là,
mm-hmm.
fait que, puis il a reçu une autre extension avec les nouveaux boss du UFC. Fait que, t'sais, je veux dire,
c'est toujours lui qui gère ça.
Ben, il gère c'est pas lui le matchmaker.
Okay.
C'est pas lui qui fait les combats. C'est pas avec lui que tu signes des affaires. Lui, il est là pour. C'est comme la face du UFC.
Le porte-parole.
C'est ça, c'est le porte-parole du UFC. That's it.
OK. Puis maintenant, les rumeurs de dopage dans l'UFC, c'est-tu parce que c'est...
pas une rumeur.
Ouais, c'est ça. Hein? C'est... Il y en a.
Ouais, il y en a. Il y en a moins à cette heure, je te dirais, parce que là, l'USCDA est arrivé, puis là, t'as des grandes vedettes qui se sont faites pogner. T'sais, Anderson Silva s'est fait pogner, t'as Hector Lombard s'est fait pogner.
Anderson Silva.
Ouais, puis là,
pis ça Jones,
fait, Jones s'est fait pogner aussi.
Lesnar et tout.
Ouais, Lesnar, ça, on était pas très surpris. Là. On s'entend, là, quand tu pisses fluo, là, quelqu'un a amené.
Quand tu pisses du Monster, là, c'est ça.
Tu sais, on était pas trop surpris, mais.
C'est même s'est fait le Monster dans le
c'est ça. C'est la pisse à Lesnar. Il met juste un peu de Perrier là-dedans.
Ah ouais, un peu de Red Bull.
Mais c'est ça, tu sais. C'est sûr. Puis tu sais, je pense pas que ça va être réglé un jour au complet. Il y en a toujours qui vont. Il y a toujours avoir des tricheurs. Il y en a toujours qui vont
trouver une façon.
Toujours de trouver une façon. Puis tu sais, il y en a toujours qui vont être capables de se payer des bons nutritionnistes ou des bons docteurs qui vont être capables de gérer la dose pour que ça soit pas détectable. Des affaires de la même, tu sais. Mais. T'sais, c'est sûr qu'il y en a qui se font prendre, puis tant mieux. T'sais, je veux dire,
ouais. Mais pourquoi qu'il y en a qui en viennent à faire ça? C'est-tu parce que ça, ils veulent tellement réussir?
Oui, il y en a que c'est une question de vieillesse aussi. Il y en a qui pour récupérer plus vite. Mm-hmm. T'en as des centaines et des centaines de sortes de stéroïdes. Puis t'en as que c'est pour prendre la masse, t'en as d'autres c'est pour être plus explosif, t'en as d'autres c'est pour récupérer plus rapidement, guérir des blessures. Mm-hmm. Fait qu'il y en a qui essayent de prendre des shortcuts puis de se prendre ces affaires-là. Il y en a qui font les bonnes affaires puis souvent qui peuvent se faire qui peuvent passer puis sans se faire pogner. Mais je te dirais de moins en moins à cette heure parce que avant on était juste testé dans la piste. Mm-hmm. Là, aujourd'hui on est testé dans le sang aussi. Okay. Donc c'est différent.
Puis c'est-tu pour ça que m'amener Georges Saint-Pierre voulait quasiment plus se battre ou
ben,
tu sais
oui.
C'est arrivé après son combat avec tu sais le dude avec la grosse barbe là.
Ouais, Johnny Hendricks.
Ouais, Hendricks.
Ouais, puis lui, t'as-tu vu depuis que USADA est arrivé, qu'ils ont fait les tests plus évolués, mais ce gars-là n'a plus jamais été le même là.
Ouais.
Premièrement, il est devenu fat, il est devenu lent, il est devenu mauvais, il est devenu fucked up dans sa tête, et il n'a plus jamais été le même. Il s'est jamais fait pogner, on peut pas dire qu'il en prenait.
Ouais.
Mais tu sais, quand tu regardes, tu sais, t'en viens de la réalité maintenant, il y a des gars qui ont dégonflé là, à côté, ouais. Là, tu dis tabarnak, ok, toi, t'étais sur le gros jus. Puis tu sais, genre, c'est un peu de sa faute aujourd'hui si l'USCDA est au UFC, parce que lui, son cheval de bataille, ça a été ça pendant 4 ans de temps. Ouais. Il dénonçait les stéroïdes, il dénonçait.
Pense qu'il avait raison de le faire.
Ben oui, 100%. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, tu vois les résultats. Des grandes vedettes qui se font prendre. Il y en a d'autres qui se font prendre, mais il y en a des grandes vedettes qui se font prendre. Fait que, il passe pas des free pass à personne. T'sais, quand tu sais un gros nom ou un petit nom,
ils vont te tester de la même façon.
Exact.
Tiens. Puis. Ouais, c'est ça. Puis le monde, sont-tu quand même contents que ça soit arrivé, ça, ces affaires-là?
Oui.
Ces contrôles-là, je veux dire.
Ben, la plupart, je te dirais oui.
Ouais.
Il y en a d'autres qui sont plus de la vieille école, là. Puis ils disent, hey, les combats sont moins fun aujourd'hui parce que les gars sont moins sur le jus, sont moins agressifs, toute la quête. Sacrement, tu sais, je veux dire, on se tape sa gueule, là.
Ouais.
Je veux dire, le gars qui est sur le stock, peut-être la quitte, là, ça te donne pas du talent, le stock, là, mais tu sais, ça peut te donner, devenir plus musclé, devenir plus rapide.
C'est un boost.
Là, t'es rendu au cinquième round, puis tu sautes, t'es aussi frais que rendu au premier round. Sacrement, tu te poses des questions à un moment donné, tu sais,
ouais.
Ça vient juste à jouer à ça. Tu sais, dans ce genre de situation-là, c'est quasiment une arme que t'amènes avec toi dans l'octogone si t'es complètement boosté, tu sais, au jus.
Mm-hmm.
Fait que c'est ça pareil, mais. C'est sûr qu'il y a des combattants qui dominaient avant qu'aujourd'hui ils sont plus là.
Ils sont plus là, pas en tout. Ah ouais. Puis maintenant, comment tu vois ça l'apparition de Brock Lesnar avec Daniel Cormier? Ouais. Hein?
Ben,
trouves-tu que ça perd en crédibilité?
Ben oui. C'était n'importe quoi, là. T'sais, si tu veux stager de quoi, engage un scénariste, fais quelque chose pour que ça a l'air réel. Je dis pas que c'était scénarisé que dans les gangs qui narguent Miocic. Ça, il l'a fait, mais après, t'sais. T'es arrivé, puis il s'est fait pousser. T'as vu, il a fait comme un semblant de revoler plus. Là, t'es là, oh mon Dieu. Puis là, moi, j'essaie de décrire ça, puis de rester sérieux. Là, moi, j'étais en arrière, là, j'en regarde
humble,
ça.
Ouais.
Là, j'en regarde, ah, qu'est-ce que c'est ça, man? Pour vrai,
j'ai arrêté au bon temps.
Ça n'a pas de bon sens. Là, t'es là, puis là, moi, j'suis en arrière de mon micro, là, à ADS, puis là, qu'est-ce que je dis de potentiellement intelligent pour pas dire que c'est deux caves. Je dis, tabarnak. Mais aujourd'hui, il faut que tu comprennes que le
sport... tout le monde aurait été d'accord avec toi. Non,
sûrement. Mais, mais c'est ça. Le sport est rendu là. Le sport est rendu, c'est un sport spectacle. Plus qu'un sport de performance sportive, je dirais. Fait que, tu sais, l'important, c'est de vendre des pay-per-view. Puis ça va vendre des pay-per-view. C'est ça le plus important pour eux autres maintenant.
Mais tu sais, je trouvais que ça passait à la pesée, tu sais, quand ils s'en regardent. Puis tu sais pas si c'est trop vrai ou pas vrai. Puis ils s'envoient chier, des enfants de même. Mais au moins, tu es rendu dans l'arène. Tu sais, là, c'était vraiment deux combattants qui se battaient. Puis il y avait pas de... Tu sais, il y avait un respect qu'il y avait, tu sais. Mais là, je trouve que c'est... Je trouve ça plate un peu. T'sais, si je veux voir de la lutte, m'aller checker de la lutte.
C'est
là,
ça. C'est tout ça que tout le monde dit. Puis c'est surtout de la manière que ça s'est passé aussi. T'sais, les deux prennent le micro, on se parle, puis on est rendu où là? Ça dégénère, ben raide là. Puis tu sais.
Parce qu'ils ont eu de la pression, les gars, pour le faire?
Ben, c'est peut-être pas de la pression de l'organisation, mais ils savent que maintenant, il faut que tu fasses ça. Pour avoir, tu sais, les grandes vedettes comme Daniel Cormier, là, ils ont des pourcentages sur les ventes de pay-per-view qui sont vendues.
Mm-hmm.
Ça, c'est payant.
Ouais.
Ta bourse, là, oui, tu vas faire une coupe de 100 000 $ mais c'est pas ça le plus payant au bout de la ligne. Là. Au bout de la ligne, c'est si tu vends des pay-per-view puis tu as un 5-10 $ de pay-per-view vendu.
Ouais.
T'en vends 600-700 000 là, à 5 piastres du pay-per-view vendu. C'est bol, là. Tu viens de devenir millionnaire. Là, mm-hmm. Fait que ça, c'est important pour les grandes vedettes d'aller chercher des pay-per-view, des ratings de pay-per-view si c'est dans leur contrat un pourcentage de ça.
Fait que il y en a qui sont un peu prêts à genre se travestir pour pouvoir.
C'est le bon mot. c'est le bon mot. Exact. C'est ça.
crime. Ben c'est ça, tu sais, ben c'est sûr que genre...
Le sport est rendu là, tu sais, c'est pour ça, tu sais, quand tu trouves ça le fun ou plate, c'est vrai que, tu sais, peut-être ça dénigre, ça pas dénigre le sport, mais tu sais, ça dénaturise le sport un petit peu, mais it is what it is, tu sais, je veux dire, c'est rendu là. Il reste que, tu sais, c'est pas mal moins pire que CM Punk, tu sais, je veux dire, CM Punk, ça avait pas crise de bon sens qu'il soit là, tu sais, je veux dire, ça a aucun bon sens que CM Punk ça aille là puis qu'il fasse 500 000 du combat.
CM Punk?
C'est un autre gars de la lutte.
OK.
Sauf que lui, il a jamais rien fait. Tu sais, Brock Lesnar, faut qu'il donne. Il y a une lutte, il y a une carrière de lutte collégiale, lutte olympique, vraiment là, solide. Là.
Okay.
C'est vraiment un athlète. C'est pas juste un lutteur qui fait de
WWE. Ouais, pas qu'un gros goon.
C'est vraiment un athlète, là, Brock Lesnar. C'est un épais, mais c'est un athlète. Okay? C'est pas vraiment...
Sa grosse épée.
C'est une petite veilleuse dans un grand passage. Il okay? Faut pas que tu poses trop de questions. Mais CM Punk, il est arrivé là puis il avait zéro combat. Il n'a jamais rien fait dans sa vie. Puis, tu sais, il s'est fait traverser les deux combats qui s'est battu. Puis, c'était pas chic, là. Puis, tu sais, quand tu regardes les autres qui sont en arrière de moi, là, je regardais ça. Puis, j'en connais 18 qui sont capables d'être là à sa place. Là. Puis, des gars qui travaillent, qui bûchent.
Ouais.
Tu sais, c'est pas plus facile aujourd'hui de te rendre à un haut niveau que ce l'était v'là 10 ans. C'est encore plus difficile parce que tout le monde veut se ramasser là. Fait que c'est bien contingenté. Fait que, tu sais, c'est pas facile de te rendre en haut. Tu sois à bonne place au bon moment ou que tu aies une personnalité extraordinaire.
Ouais.
Mais c'est pas facile.
C'est quoi la réalité, mettons, des Québécois ou de pouvoir se rendre monter là-dedans? C'est-tu bien difficile?
Ouais. C'est vraiment difficile. T'sais, à cette heure, t'as The Ultimate Fighter, la télé-réalité qui est une bonne façon de rentrer dans UFC si t'es capable d'aller dans cette émission-là.
C'est une opportunité de plus.
C'est une opportunité de plus. C'est sûr que quand t'alignes des victoires et t'as des bons contacts, t'es capable de te faire voir à gauche puis à droite. Mais tu sais, c'est pas évident. Même pour les Américains, même pour n'importe qui, à cette heure. L'UFC a un bassin de plus de 500 combattants. Là, fait qu'à un moment donné, c'est pour ça qu'ils font beaucoup de shows aujourd'hui, parce qu'il faut qu'ils fassent battre à un moment donné. Mais toujours engagé. Fait qu'à un moment donné, il faut qu'ils slack ça, il faut qu'ils en mettent à la porte des fois. T'sais. Fait que la réalité des Québécois ici de se rendre au plus haut niveau est vraiment pas évident.
Mm-hmm.
Puis pour te rendre au plus haut niveau, ben, il faut que tu fasses quasiment ça à temps plein. T'entraîner puis essayer d'améliorer tes skills. Puis si tu te bats au Québec, pourquoi? Pour 2000 piastres.
Hein? Ouais.
Je veux dire, 2500 piastres. Puis si t'es chanceux un petit peu plus que ça, essaye de vivre avec ça. Puis un coup que t'as payé ton gérant, t'as payé ton training, essaye de vivre avec ça jusqu'au prochain combat. T'as pas le choix, faut que tu travailles.
Fait, ben
c'est comme un cercle vicieux maintenant.
Mm-hmm. Toi, à partir de quand que t'as pu commencer à gagner ta vie du UFC?
Tu vois, moi, c'est ça. Le combat avec le Tito Ortiz, c'est sûr que j'ai eu une agitation sur ma bourse. Mm-hmm. Je me battais au premier combat de la sous-carte, je faisais 2500$ plus 2500$ si je gagnais. Mm-hmm. Okay? Dans ce temps-là, UFC, c'était ça, c'était le minimal. Aujourd'hui, c'est 10 ou 12 000.
Ouais.
Mais c'est ça. Fait que là, pour que Tito Ortiz, il m'avait donné, je pense, c'était 25 000 plus 25 000 US. Okay? Fait que, fait que pour moi, c'était une grosse avancement. Fait mm-hmm. que, je savais que. Puis là, je suis en train de sortir de l'armée dans ce temps-là aussi parce que je voulais essayer de faire carrière là-dedans.
Okay.
Fait que, j'ai vraiment flippé un 25 cents dans les heures, voir si ça allait marcher. Puis ça a marché. Mais tu sais, ça aurait pu pas marcher. Puis que je revienne dans l'armée aussi.
Ouais. Ben oui. Puis, ouais, c'est ça, tu sais, tout à l'heure, on parlait de Brock Lesnar, puis, mettons, qu'est-ce que tu penses de le UFC versus boxe? C'est une bonne affaire? C'est quoi qui faisait du sens? C'était encore juste pour faire du cash.
Tu veux dire, mixer les deux, là? Comme,
Mayweather contre ouais. McGregor.
Ben, écoute, une passe de cash. Ouais. C'est une passe de cash, mais c'est une passe de cash qui a réussi ouais.
Énormément. Ben ouais, tout le monde l'attendait.
Tout le monde l'attendait. Puis
ouais.
à Vegas, ça a été. Ils ont montré une photo aérienne de l'aéroport. Là. Ça a été la fois où il y a eu le plus de jets privés qui attendaient pour décoller après le combat. Il y avait tellement de jets privés qui étaient arrivés à l'aéroport qu'il a fallu qu'ils les mettent en ligne puis que ça a pris quasiment 2 heures avant tout éliminer. Sur le tellement que tous les jets privés qui voulaient partir parce que tout le monde venait des trois coins de la planète pour voir ce combat-là.
Oh, OK, dans ce sens-là. Okay, okay,
c'est
oh
pour
shit.
Ça que je dis que... Mais il n'aurait jamais pu faire ça avec deux autres boxeurs. T'sais, Mayweather et McGregor, c'est les deux plus grandes gueules, les deux meilleurs vendeurs de leur sport.
Okay.
C'est pour ça que c'était arrivé comme ça.
Ouais.
Mais tu sais, je dis, ils ont réussi. Là, ils ont fait plus que 100 millions chaque là, pour ce combat-là.
Puis qu'est-ce que tu as pensé du combat?
Ben, pas trop de surprise. Puis en même temps, le combat s'est rendu au 10e, ben parce que Floyd Mayweather voulait que ça se rende au 10e. Mm-hmm. Il aurait pu le finir bien avant ça.
Ah, tu penses? Ah ouais.
T'sais, le gars, il a jamais boxé dans sa vie. La MMA et la boxe, c'est pas la même chose. C'est deux sports complètement différents. Hey, tu parles d'un gars qui est 49-0. Là. Le meilleur boxeur de tous les temps. Tu l'aimes pas ou tu l'aimes. Ouais. Ça change rien qu'il est 49-0.
Les chiffres sont là.
C'est
ouais.
ça, les chiffres sont là.
Ah ouais.
C'est ça.
Puis tu penses-tu que le contraire pourrait arriver, que lui s'en va...
Jamais.
Non, hein?
Jamais. Ça sera encore pire. Ouais. C'est encore pire qu'un boxeur aille en MMA
ouais.
qu'un gars d'MMA aille en boxe. Parce que là, en l'autre, MMA, t'as ben trop d'outils. Là.
C'est ça.
Moi, je pense que le premier coup pied dans les jambes qu'un boxeur va recevoir, il va tomber à terre. Là, puis il sort le droit. Ils sont pas habitués à ça.
Ouais, peu importe son entraînement.
Il lâche un coup pied dans les jambes, c'est fini. ça durera pas longtemps. Mais tu sais, c'est ça je te dis, c'est deux sports complètement différents.
Ouais.
Tu peux pas vraiment les mélanger.
Tu sais, là, ça, tout à l'heure, on parlait de GSP. Qu'est-ce que GSP a amené soit à l'UFC ou au Québec?
Ben, tu sais, Georges, pour moi, c'est le meilleur combattant de tous les temps. Tu sais, pour plusieurs raisons.
Ah ouais?
Tu sais, il a été champion dans deux catégories de poids différentes. Ce que du monde ont déjà fait, sauf que lui, tu sais, il a défendu son titre à plus que 9 fois aussi dans les 170 livres.
Ouais.
Mais ce qui vraiment distingue Georges, c'est que, tu sais, tu regardes les autres plus grands de la planète, tu regardes Anderson Silva, tu regardes John Jones, tu regardes tous les autres, tu sais, ils se sont tous fait pogner pour quelque chose. Tu sais, Georges, il est clean.
Depuis c'est un athlète.
C'est un athlète, ouais. Il est clean. Même si le monde le regarde, ben voyons donc, tu sais, il est sur le jus, tout like, ouais, mais prouve-le, tu sais, je dis, tu sais, puis ça serait bien capable de se faire pogner aujourd'hui, vu que c'est lui, pendant 4 ans, qui a parlé contre les... Hey, ça serait pas fort, tu sais, ça serait un peu innocent. Mais, tu sais, techniquement, t'sais, il revient après 4 ans, il se bat contre le champion du monde à 185, ça, on va le battre. Tu sais, puis pour moi, Georges, il est un petit peu, tu sais, il a un toc, là.
Ouais.
Il est un peu, il sait pas faire grand-chose d'autre que se battre, là.
Ouais.
Mais ce qui c'est ça, il le fait bien en maudit, tu sais. Pour là-dessus, tu sais, pour moi, c'est le plus grand combattant de tous les temps, là, dans les arts martiaux mixtes, c'est ça.
Mm-hmm. Puis ma tante, si t'avais un dream fight à faire, tu sais, peu importe qui, peu importe le temps, c'est intemporel, tu sais. Ça serait qui que t'aimerais ça te battre?
Moi, me battre?
Ouais, ouais. Mettons, à l'époque que toi, t'aurais voulu, hein, tu sais.
Ouais, ben écoute, moi, sérieusement, j'aurais vraiment, vraiment, vraiment aimé ça me battre contre Vitor Belfort. Quand les deux, mettons, on aurait été à notre top, là.
OK.
Ça, j'aurais vraiment aimé ça. Tu sais, c'était lui et Tito Ortiz au début, là, c'était vraiment les deux combattants que je regardais puis qui m'ont comme inspiré. Puis j'aurais vraiment aimé ça, tu sais, me battre contre lui. Mais tu sais, Dream Fight, t'sais, je dis, c'est dur pour moi d'aller plus haut que me battre contre Anderson Silva et Tito Ortiz. Ces deux gars-là, c'était ces deux légendes.
C'est ça. Puis toi, t'as eu la chance de te prendre compte.
C'est ça. J'ai croisé le fer. C'est bizarre. À toute fois, on me dit, c'est quoi tes plus beaux souvenirs? C'est tout le temps quand j'ai perdu. C'est de même, mais c'est plate, mais c'est ça.
Puis, crème, je pense que c'est pas mal ça, man. Il y en a une couple, il voulait savoir. Bosser contre Jean-Pascal.
Ouais.
Qu'est-ce que tu penses de ça?
Écoute, je pense que le monde n'a pas beaucoup pogné à ce combat-là. Il n'y a pas beaucoup de billets de vendus, là. Mais, tu sais, Bosser, moi, c'est un de mes bons amis. Puis, okay. Whatever ce que le monde pense, là, lui, il s'est entraîné pour aller le battre. Il pense vraiment dans sa tête qu'il s'en va gagner.
Mm-hmm.
T'sais, on s'entend, là, bosser, il y a une chance de gagner, c'est s'il bouscule puis il pince. T'sais, s'il se bat techniquement avec, là, Pascal va jouer avec. Là. Que tu l'aimes ou tu l'aimes pas, Pascal, il était champion du monde, pareil. T'sais, c'est un boxeur technique. Fait que bosser, il faut qu'il arrive, faut pas qu'il le respecte, faut qu'il pousse, faut qu'il. Whatever. T'sais, faut qu'il swing puis qu'il ça, il rentre ça comme un street fight quasiment parce que s'il boxe technique, là. Ça, je pense que ça va être. Ça sera pas trop difficile pour Pascal. Mais, tu sais, l'important, là, c'est ici, ça se passe.
Ouais, c'est ça.
Bossé, hein? Il pense qu'il va gagner. Ouais. Vraiment, il croit qu'il s'en va là pour gagner. Mais, whatever, tu sais. Qu'il y ait 5 personnes ou 3000 personnes dans la foule, je te dirais que les deux font de bonnes payes.
Ouais. Exact. Puis, maintenant, en terminant, c'est quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut faire ça du MMA?
De bien s'entourer, de trouver une bonne équipe qui veulent t'aider, de ne pas servir juste à chair à s'entraîner aux autres qui sont plus populaires, de garder l'esprit ouvert, de prendre les conseils de tout le monde. Puis, tu sais, t'arrives chez vous à la fin, mais tu sac à poubelle ce que t'aimes pas, puis tu gardes. Mais, tu sais, vraiment, juste de garder l'esprit ouvert, puis d'écouter tout le monde, puis de bien s'entourer, puis pas sauter les étapes. Mm-hmm. Pas avoir trop la tête enflée.
Toi, mettons, c'est quel échec, mettons, que tu as appris le plus ou ce que tu aurais aimé ça, mettons, de savoir ça en commençant, tu sais?
Qu'il y a toujours quelqu'un qui va te battre à un moment donné.
Ouais.
Tu sais, okay. ça va bien, tu te sens invincible, puis là, t'arrives et tu frappes un esti de nœud pour moi, là. Ça, puis l'autre conseil que je fais, tu sais, aujourd'hui, là, ça me passe du pied par-dessus la tête, mais quand j'ai commencé, tu sais, j'allais sur des sites de discussion, des forums de discussion. Tout le monde parlait de moi. Puis du monde, je connais pas Pantoute. Puis là, il me disait que j'étais de la merde. Puis il y en a d'autres qui disaient, ben non, fucking. Puis je pognais les nerfs après ça. Je pognais les nerfs après Johnny qui me disait que j'étais un C-level fighter. Je disais, what the fuck, tu me connais
mon
pas.
Mon esti, fuck.
Puis c'est ça. Puis là, aujourd'hui, t'sais, ça me passe du par-dessus la tête, mais. Tu sais, des keyboard warriors dans ce monde-là, MMA, je pense que c'est. Écoute, il y en a.
Ah ouais, des haters, là.
Juste pour hater, puis.
Ouais.
Faut pas que tu pognes à ça. On s'en fout, là. Tu sais, je dis, toi, tu sais ce que tu fais, mais.
Ouais.
Sérieusement, des fois, tu relis ça, tu dis, ah, ben, mec, t'es qui, toi?
Ah ouais. Hey, moi, tout, là. Juste, ben, en humour, nous autres, c'est ce qu'on en a aussi, là. Hey, puis moi, je les envoie chier. Puis je screenshot ça, puis là, je le remets sur ma page, puis là, le monde like, puis il envoie chier.
Mais oui,
tout mon fanbase l'envoie chier, mais moi tout, faut que j'arrête de faire ça parce que des fois je me rends compte que je suis tellement trop direct là. Je suis trop chien puis je fais comme hey gars là, je fais pas ça pour ça là, tabarnak. C'est trop d'énergie pour
rien. Il y en a qui attendent juste ça, ça reste sur internet puis ils reviennent avec toi avec ça par en arrière. Keyboard Warrior, là, il y en a pas mal.
Yes. Hey, ben, merci beaucoup, hey, man. Patrick Côté, yes. Man. Je suis vraiment content. C'était super cool. T'as-tu
cool.
Du fun, moi?
Yes, c'était vraiment cool.
Yes, puis maintenant, si on veut te voir, c'est à RDS. Tu
RDS,
commentes,
quasiment à tous les samedis. Là, ben, tous les shows qui existent, on le fait à RDS. Puis ça va super bien. Ça fait 10 ans qu'on fait ça. Puis on espère qu'on est à notre dernière année de contrat avec UFC International.
Mm-hmm.
Donc, reste à voir si on va
renouveler
pour encore une couple d'années. Mais ça a l'air de bien aller. Là. C'est sûr, là, ils viennent de signer avec ESPN aux États-Unis. Puis ESPN n'est pas disponible au Canada. Fait que ça serait bien épais qu'il n'y ait pas un diffuseur au Canada. Mais puis avoir un gig francophone aussi, ils aiment bien ça. Fait. Mais sinon, il nous reste jusqu'en décembre. Fait que tous les samedis, on va être là. Fait qu'on a bien du fun.
Puis, t'as ton gym aussi, c'est où?
Ouais, Centre XPN arrive ça. C'est sur l'avenue des Promenades, juste à côté des Promenades Saint-Bruno. Écoute, la sac dépôt. D'habitude, le monde savent c'est où. Fait que c'est juste à côté de la sac dépôt.
Connais ça, moi,
t'as marqué. C'est juste à côté de la sac dépôt ou Golf Town, on est dedans.
That's it. Ben, merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Puis encore une fois, gros merci, Pat Côté. Hey, c'est vraiment apprécié.
Super cool.
Puis je te souhaite le meilleur, mon
merci.
Chum. Ciao tout le monde. Ciao.